Sermon XXX Christ, le chemin vers la vie éternelle prêché à Gracieux Street, le 6 mai 1688. Le désir de toutes les nations est venu, ce que tous les peuples désirent à leur manière, est venu à la manière de Dieu, car toutes les nations et tous les peuples sur la terre désirent la vie éternelle. Tous voudraient être heureux dans l'autre monde, et pour y parvenir, ils se sont aménagés bien des voies et des méthodes, dans lesquelles ils se sont proposés la jouissance de la vie éternelle, mais à cause des ténèbres qui sont en eux, ils se sont égarés. Dans leur voie, ils ont été dispersés, ils ont été chassés et ballottés çà et là, et ne peuvent jamais s'accorder sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Cela vient de la grande obscurité qui pèse sur les fils et les filles des hommes en général, dans laquelle ils ont perdu leur chemin et s'efforcent de le retrouver. Mais l'adversaire subtil les a conduits hors du chemin, et tant qu'il conduira et qu'ils suivront, ils ne trouveront jamais le bon chemin. La grande calamité qui s'est abattue sur le monde à cet égard est très grandement à déplorer, car lorsque l'œil de l'esprit s'ouvre pour contempler l'état universel du genre humain, et voir comment ils sont dispersés çà et là et souvent laissés dans la confusion par l'artifice et l'illusion du méchant, et que nul des chemins qu'ils ont trouvés n'est susceptible de les mener au but proposé, parce qu'ils sont souillés, parce qu'ils sont impies. Cela a souvent courbé l'esprit des serviteurs du Seigneur, et un grand cri s'est élevé dans le cœur de ceux qui ont vu la fruition et la jouissance de la vie éternelle. Aussi les fils des hommes pouvaient entendre, et aussi ils pouvaient considérer leurs voies avant d'arriver à leur fin dernière. Car remarquez, amis, vous pouvez tenir ceci pour une doctrine certaine et une règle sûre de jugement concernant toutes les voies dans lesquelles marchent les fils et les filles des hommes. Si elles sont impies, elles seront inutiles. Le chemin du Seigneur a été, est et sera toujours le chemin de la sainteté, et le peuple qui y marche était, est et sera toujours un peuple saint. Or les fils et les filles des hommes ne sont pas allés mesurer leur voie à cette règle. Au contraire, les plus grands efforts qui aient jamais été dans le monde depuis le commencement, les plus grands efforts entrepris par les hommes, ont consisté à voir à quel point ils pouvaient faire approuver leur doctrine et leur pratique par les Écritures de vérité. C'est là l'os de contention sur lequel ils ont trébuché de génération en génération, l'un criant « Mon chemin est le bon ». Là, ils ont contesté, disputé, crêlé et débattu les uns avec les autres, sans jamais pouvoir s'accorder ni parvenir à cette intelligence qui est donnée par l'Esprit Saint, lequel a poussé des hommes saints à écrire les saintes Écritures de vérité. S'ils l'avaient eu, il est manifeste qu'ils se seraient accordés, car ce seul Esprit doit s'accorder avec lui-même et rendra jugement selon son propre juste jugement. Les hommes, aliénés de la vie de Dieu par de mauvaises œuvres et par les suggestions de Satan, n'ont pas connu le chemin de la paix et ne sont pas parvenus à ce qui est le désir de toutes les nations. Or, dans la plénitude des temps, le Seigneur Dieu éternel, qui a créé les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau, a regardé d'en haut et a contemplé l'état misérable et calamiteux des fils et des filles des hommes, et il a vu comment ils ont été dispersés et poussés çà et là par des pasteurs oisifs, et comment chacun s'est complu dans sa propre voie, quoique impie et impur, à cause des ténèbres de la nuit d'ignorance qui ont couvert le peuple. C'est pourquoi, dans son amour et sa miséricorde infinie, il s'est levé et a fait paraître sa lumière et sa vérité, afin que les nations soient éclairées, qu'elles puissent venir et voir d'un œil divin que la vérité n'est qu'une et le chemin qu'un seul, et que tous ceux qui désirent réellement être héritiers de la vie éternelle doivent venir marcher dans ce chemin. Ainsi les gens ne sont jamais ramenés hors de ce chemin dans lequel ils ont été dispersés et ballottés, jusqu'à ce qu'ils voient que le chemin qu'ils pratiquent produit l'iniquité, absence de loi, péché, mal. Alors ils voient qu'il n'y a pas de lumière à y obtenir, ils voient la colère de Dieu s'allumer et l'indignation de Dieu se déverser à cause du péché et de l'impiété. Or, lorsqu'ils en viennent à être convaincus de leur désobéissance par la lumière de Christ Jésus, ils en viennent alors à sentir et à trouver un principe, une semence et une racine qui leur donne une loi qu'ils doivent obéir, à entendre le vrai législateur et à avoir du respect pour lui. Voici la révélation de Christ Jésus par son esprit, et cela s'étend dans son action et son œuvre, au fil des hommes, à ceux qui sont loin aussi bien qu'à ceux qui sont près. C'est pourquoi notre exhortation continuelle, de temps à autre, selon que l'Esprit nous a donné la parole, n'est pas tant de faire profession de telle ou telle doctrine du christianisme, que de persuader tous les hommes partout, afin qu'ils croient dans la lumière et qu'ils prêtent l'oreille à la voix de la lumière dans leur propre conscience, afin qu'ils écoutent ce qui est purement de Dieu. À quoi bon montrer des couleurs à des aveugles ou dire des paroles à des morts? Tant que les hommes n'en viennent pas à avoir leur sens ouvert, afin de discerner les choses qui appartiennent à l'esprit de vérité, l'homme charnel ne peut comprendre les choses de l'Évangile de Christ. L'homme charnel n'est pas soumis à la loi de Dieu, et ne peut même pas l'être. Il faut qu'il se passe quelque chose dans l'âme, pour la tirer de sa chair et la conduire à quelque chose de spirituel, avant qu'elle soit capable de comprendre les choses de l'esprit. C'est pourquoi, lorsque nos esprits peuvent attester ce pourquoi nous sommes venus ici, lorsque nous nous réunissons pour servir et adorer Dieu, nous aurons l'espérance de recevoir quelque illumination, quelque rafraîchissement, quelque consolation ou quelque connaissance des choses divines, il est vain d'assister à des doctrines religieuses avec un esprit irreligieux. Je juge avec amour que chacun qui vient ici a quelque attente d'illumination dans son entendement, quelque don ou quelque instruction. Cela, ils peuvent le recevoir du Dieu du ciel, par le ministère de ceux qui doivent être la bouche de Dieu, pour leur parler en son nom. Quand les gens sont ainsi préparés et que leurs esprits sont fixés à entendre la vérité, s'ils ne la trouvent pas en eux-mêmes, s'ils n'en viennent pas à sentir la parole de vie dans leur propre cœur, leur écoute ne peut leur donner la vie. Nous nous recommandons à la conscience de tout homme, que vos pensées se tournent vers l'intérieur, cherchez et considérez, y a-t-il une lumière qui éclaire tout homme venant au monde? Un désir de vie éternelle se manifeste-t-il en moi? Y a-t-il quelque chose en moi qui plaide pour l'obéissance à Dieu, pour corriger ma vie et ma conduite, afin que je puisse être recommandé à Dieu? Y a-t-il quelque chose en moi qui me reprend lorsque je parle mal et lorsque je fais mal? J'en appelle au témoin de Dieu en vous. S'il en est ainsi, alors croyez-moi à cause de la parole, à cause du témoignage de Dieu dans vos cœurs. Considérons ensuite si nous ne ferions pas mieux de nous accorder sur cette conclusion, que Dieu nous a éclairés, et si nous ne ferions pas mieux d'obéir à cette lumière, c'est le meilleur chemin, posons la question et attendons une réponse de nous-mêmes. Il y a certes beaucoup à dire de l'autre côté. Si j'écoutais et obéissais à ce par quoi je suis éclairé, si je prêtais l'oreille aux reproches de ma propre conscience, je perdrais une grande part des plaisirs et des consolations du monde, je perdrais une grande part du profit que je tire de mon commerce et de ma vocation, et du plaisir et de la joie que j'ai avec mon voisin. Cela ne peut être nié, je voudrais que les choses soient mises en balance. J'accorde que vous perdrez quelques plaisirs et un gain impie et l'amitié du monde, mais je vous prie considérez et passons en revue le compte. Si vous obéissez à cette lumière de Christ Jésus, c'est la manière qu'a Dieu de vous attirer plus près de lui, afin de faire de vous un héritier de son royaume éternel. D'un autre côté, si vous vous abandonnez à vos parties charnelles, vous perdrez votre âme immortelle. Si vous gagnez le monde entier et perdiez votre propre âme, à quoi cela vous servirait-il? Vous devriez considérer, pourquoi suis-je éclairé? Comment se fait-il que ma nature soit mauvaise, et que je sois tombé de mon état premier, de la connaissance de Dieu, et de la jouissance de sa présence et de la communion avec lui? Comment Dieu en vient-il à prendre garde à moi, à m'éclairer et à allumer en moi un désir de revenir à lui? Pourquoi ferait-il cela pour moi? Vous ne trouverez jamais en vous-même une raison de cette bonté extraordinaire, de cette miséricorde singulière de Dieu envers vous, c'est parce que sa miséricorde l'a ému, et c'est sa compassion qui l'a poussé. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde afin que les hommes aient la lumière en lui et par lui, et l'aient en abondance. La miséricorde de Dieu est une source d'où tout cela coule vers nous. Si cela ne l'emporte pas sur vous, aucun argument ne le fera. Quoi n'était-ce que pure miséricorde, pure grâce, que Dieu ne voulait pas me voir périr et courir tête baissée à la destruction? Il répugnait à exécuter sa colère sur moi, c'est pourquoi il a trouvé un moyen par lequel je pourrais revenir à lui. Cela fit s'écrier un homme de bien, voici quelle sorte d'amour le Père nous a témoigné, voici la grâce de Dieu, voici la bienveillance de Dieu, voici le chemin, un chemin, quel chemin! Un chemin pour venir à Dieu, un chemin pour être de nouveau réconcilié avec Dieu, que nous avions provoqué par nos péchés. Un chemin pour jouir de nouveau de la vie éternelle, après avoir perdu tout droit d'y prétendre. La question suivante est « Qui marchera dans le chemin qui mène à la vie éternelle ?» Nous voudrions tous la vie éternelle, c'est le consentement universel de toutes les nations, tous voudraient la vie éternelle, mais la question est « Qui marchera dans le chemin qui y mène ?» Certaines des autres nations, et beaucoup dans cette nation, marcheront dans leur propre voie, et pourtant ils voudraient la vie éternelle. Mais leur voie doit être de même nature et de même qualité que la vie qu'ils voudraient avoir. Si le chemin dans lequel ils marchent n'est pas de même nature et de même qualité, il n'y conduira pas. Que chacun examine sa voie, que chacun examine ses progrès, sa vie et ses pas dans ce monde. S'ils sèment pour la chair ils récolteront la corruption, et s'ils sèment pour l'esprit, de l'esprit ils récolteront la vie éternelle, un fruit conforme à la vie qu'ils mènent et au chemin où ils marchent. Si nous concluons avec une raison pure et saine, nous devons conclure qu'il vaut mieux pour nous tous marcher dans le chemin de la sainteté, et nous aurons plus de raison de croire que nous aurons la vie éternelle qu'en marchant dans un chemin impie. C'est pourquoi nous devrions être résolus à marcher dans le chemin de la sainteté, et si l'on amène les gens à cela, c'est une chose aisée de les conduire à la confession. Vous dites vrai, il vaut mieux marcher dans une voie sainte que dans une voie impie. Mais hélas, nous n'avons pas le pouvoir de le faire, nous sommes frêles, faibles, obscurs et ignorants, et nous avons beaucoup de convoitises, de tentations et d'entraves sur notre chemin, si bien qu'il n'est possible à personne de marcher dans cette voie. Nous connaissons le chemin, nous le comprenons assez bien, Vous voudriez que nous marchions selon la lumière de Christ et selon les dictées de notre propre conscience. Alors nous ne serions jamais condamnés pour quoi que nous fassions, mais nous nous tiendrions dans une libre ouverture d'accès à Dieu. Quand un homme pèche contre Dieu, le péché est à la porte, mais ceux qui ne pèchent pas ont accès à Dieu. Hélas, ces choses ne peuvent pas se faire, que peut faire une pauvre créature à qui manque le pouvoir? Mes amis, que cette excuse n'aille pas plus loin, essayons et considérons aujourd'hui, en la présence de Dieu, le Dieu puissant qui est l'assistant de son peuple, essayons jusqu'où cela peut aller. Je n'ai aucun pouvoir de moi-même, tous les hommes de bien concèdent que c'est vrai, vous n'avez pas le pouvoir de marcher dans le chemin de la sainteté. Mais posons une autre question, Dieu exige-t-il de vous et de moi de marcher dans le chemin de la sainteté, et nous refuse-t-il le pouvoir d'y marcher? Nous ne pouvons marcher dans le chemin de la sainteté que par l'opération de sa puissance agissant en nous, jusqu'à éteindre la vie de péché et de corruption, qui nous a empêchés tout ce temps, Dieu sait que nous ne pouvons le faire nous-mêmes. Christ dit à ses disciples, « Sans moi vous ne pouvez rien faire, rien de bon, rien de juste. » Ceci étant admis, toute puissance vient de Dieu, la question suivante est comment et de quelle manière devons-nous recevoir de Dieu une puissance plus grande que la nôtre? Quel est le chemin par lequel les gens reçoivent la puissance de Dieu? Vous avez lu comment les gens en vinrent à avoir la puissance. À tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui ne croient pas? Si croire est le moyen d'obtenir la puissance, cela n'est rien pour ceux qui ne croient pas. Là, la foi est nécessaire en premier lieu pour obtenir cette puissance. C'est un grand mystère, une parole si étrange que le monde ne sait qu'en faire. Croyant, nous sommes tous croyants, je crois à la vérité des principes de la religion chrétienne, et je crois à tous les articles du Credo. Parler de croire aujourd'hui, nous y croyons depuis 20, 30 ou 40 ans, mais le premier acte de foi reste encore à accomplir selon votre expérience. C'est vrai pour la plus grande partie de la nation, le premier acte de foi n'a pas encore commencé, car leur foi est la foi des hommes. Nous sommes pour la foi qui a été transmise aux saints, c'est le don de Dieu, et elle vient de l'opération de Dieu, de sorte que je puis conclure, quiconque demeure étranger à l'opération de Dieu est étranger à la vraie foi. Et ceux qui s'éloignent de ce que Dieu opère sont étrangers à l'opération de Dieu. C'est pourquoi, jusqu'à ce que les esprits des gens soient tournés vers Christ, que Dieu a envoyé, qui est établi pour salut jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce que les hommes en viennent à remettre le gouvernement de l'âme et du corps entre ses mains, comme le chef de leur salut, jusqu'à ce qu'ils en viennent à se résigner ainsi, ils ne peuvent parvenir à la vraie foi. Or, lorsque Dieu opère en nous cette résignation, un homme réfléchira sur lui-même et dira « Hélas, j'ai été trop longtemps mon propre gardien. Je vois que je me suis éloigné de Dieu, maintenant je retournerai à lui et je me résignerai au Seigneur afin qu'il opère en moi ce qu'il lui plaira d'opérer. » Lorsque les hommes en viennent à cette résignation de l'âme, la foi leur est donnée. Ils doivent croire que Dieu ne les laissera ni ne les abandonnera jamais, mais qu'il magnifiera sa puissance dans leur faiblesse. « Je reposerai mon âme sur lui et je rejetterai mon souci sur celui qui prend soin de moi. » Ce n'est pas une foi seulement en parole et dans les articles du Credo, mais une foi au Fils de Dieu, à qui tout pouvoir au ciel et sur la terre a été donné. Je puis m'attendre à en recevoir une part, il m'en donnera un peu si je viens à lui pour cela, et s'il suit fidèle en peu, il m'en donnera davantage. La raison pour laquelle vous manquez de puissance, c'est que vous manquez de foi, et la raison de votre manque de foi, c'est que vous manquez de résignation à la volonté de Dieu. Vous voulez être vos propres serviteurs, et vos propres gardiens et guides. Quand vous viendrez à cette résignation à la volonté de Dieu, Dieu vous donnera la puissance, et alors vous le trouverez comme le Dieu de toute grâce. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu et par sa puissance, et par cette puissance vous obéirez à sa volonté. Voici la foi qui rend gloire à Dieu, à ce Dieu qui prend un homme impie et le rend saint. Comment fait-il cela? Par son Saint-Esprit, qui est comme un feu brûlant ce qui est corruptible. Alors l'homme est bien, je parle selon les dictées de l'Esprit, lorsqu'il est réconcilié avec Dieu par Christ Jésus, le médiateur entre Dieu et l'homme, le médiateur de la nouvelle alliance qui fait notre paix. Que vous puissiez parvenir à la connaissance du jour de la visitation du Seigneur, voilà ce pourquoi nos âmes travaillent et peinent, afin que vous soyez dans l'unité du même esprit après que le désir de toutes les nations est venu, il est venu à vous, afin que vous puissiez tous dire en vous-même, « Aujourd'hui, le salut est venu dans notre maison et dans nos cœurs. » Ne confondez pas le commencement de la foi avec la fin de la foi. La foi est un voyage. Elle a un commencement et une fin. Écoutez Jésus et lui obéir, c'est qu'il soit l'auteur et le consommateur de votre foi. Quand vous l'entendez vous parler, Jésus est l'auteur de votre foi en posant le fondement de votre foi sur le roc. Quiconque vient à moi, écoute mes paroles prononcées et les met en pratique les pratiques, obéit, je vous montrerai à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, à creuser profondément et à poser le fondement solidement sur un roc, et quand la crue est survenue, le torrent s'est jeté avec violence sur cette maison, mais n'a pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Luc 6, 47-48 Et quand vous entendez Jésus vous dire ces paroles, et que vous croyez que c'est lui, le fondement de votre foi a été établi sur le roc, un roc si solide que les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre lui. Jésus achève votre foi lorsque vous le voyez apporter votre salut. À ceux qui l'attendent avec persévérance et patience, il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut complet. Hébreux 9, 28 Car la grâce de Dieu qui apporte le salut t 2, 11 Attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 1, 21 Recevant la fin de votre foi le salut de vos âmes. 1 Pé 1, 9 Et Pierre décrit la nécessité de faire tous les efforts pour progresser dans le voyage de la foi. Pour cette raison, faites tous vos efforts le maximum possible pour ajouter à votre foi la vertu l'excellence, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous à rendre ferme votre vocation et votre élection, car si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais. 2 Pé 1, 5, 7, 10 Vous êtes sauvés par la foi, et par la foi vos cœurs sont purifiés, mais de toute évidence au commencement de la foi, vous n'êtes pas purifiés, et vous n'êtes pas non plus sauvés. Avant la purification et le salut, votre foi doit être éprouvée dans plusieurs épreuves, au cours desquelles vous devez souffrir douloureusement afin d'être purifié du péché. Avant la purification et le salut, votre foi doit être éprouvée dans plusieurs épreuves, au cours desquelles vous devez souffrir douloureusement afin d'être purifié du péché. Vous devez combattre pour la foi, croître dans la foi, édifier votre foi, augmenter dans la foi, parfaire ce qui manque à votre foi, combattre le bon combat de la foi, jusqu'à la victoire. Lorsque votre foi est achevée par celui qui l'achève, la foi est un processus et un voyage, dont la fin est de voir Christ apporter votre salut, apporter votre vie éternelle. Jacques a corrigé le raccourci consistant à croire en Jésus, comme si cela suffisait à lui seul au salut, en écrivant aux chrétiens juifs. Vous dites que vous croyez qu'il y a un seul Dieu, vous faites bien. Les démons aussi croient, et ils tremblent, Jacques 2, 19. Sachez que Jacques écrivait à des croyants juifs pour qui le Père, la Parole, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul esprit, sans contradiction avec et écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un. 2, 6, 4. Ainsi Jacques dit en substance, vous dites que vous croyez en Jésus, vous faites bien, les démons aussi, mais eux tremblent à son nom, et vous, la foi c'est entendre l'Esprit et le suivre. C'est pourquoi la loi a été notre pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais après cela, lorsque la foi reçue avec le fruit de l'Esprit est venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue la loi qui est dans le cœur de chacun. Galates 3, 24-25 Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Galates 5, 18 Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la foi en ce que vous avez entendu? Galates 3, 2 Celui qui vous accorde l'Esprit et opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi? Ou par la foi en ce que vous avez entendu qui vous a été dit, Galates 3, 5 Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu lui obéisses. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Rome 10, 8 Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Christ du dedans de votre cœur. Rome 10, 17 Veillez à ne pas refuser celui qui parle. Car s'ils n'ont pas échappé, ceux qui ont refusé celui qui parlait sur la terre, combien plus serons-nous exposés, si nous nous détournons de celui qui parle du ciel? Hébreux 12, 25 « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation, et comme au jour de la tentation dans le désert. » Hébreux 3, 15 « Sermon XX dit Christ, tout en tout prononcé par Stephen Crisp à Devonzirouze, le 10 juin 1688 le Seigneur Jésus-Christ est la seule lumière, la seule vie et la seule vertu qui puisse satisfaire. Christ est tout en tout. Rien ne peut satisfaire les âmes des justes, à moins qu'ils ne sentent la vie et la vertu couler de Christ Jésus. » Et cela, que cela passe par les paroles dites en esprit par ses instruments choisis, ou que cela coule directement du cœur de l'auditeur, cela console toujours, cela rafraîchit toujours ceux qui ont le cœur droit. C'est pourquoi tous ceux qui désirent la satisfaction de leur âme, et qui se réunissent pour cela, doivent avoir les yeux tournés vers le Seigneur, afin d'être capables de comprendre le ministère de l'Esprit, soit en eux-mêmes, soit par un autre. Car tant qu'ils sont exercés au dehors, et que la dépendance de leur âme repose sur ce qui est extérieur, il demeure un voile sur l'esprit, de sorte qu'ils entendent souvent d'excellentes choses dites du royaume de Dieu, mais ils ne les comprennent pas vraiment, parce qu'ils sont aliénés et étrangers, dans leur esprit, à ce qui est de Dieu en eux-mêmes, ce qui devrait leur donner l'intelligence. Comme prédicateurs, nous ne prétendons jamais donner aux gens l'intelligence, nous avons toujours dit que c'est l'œuvre de Dieu. Nous avons parlé de nombreuses choses du royaume de Dieu, d'excellentes choses nous ont été révélées par son Saint-Esprit, et le même Esprit nous a donné la parole pour parler des grandes choses de la loi de Dieu. Pourtant, beaucoup, qui ont été des auditeurs assidus de ces choses, demeurent ignorants et insensibles, parce qu'ils ne s'exercent pas dans leur propre mesure de la grâce et de la lumière du Seigneur Jésus-Christ, par lesquelles ils devraient les recevoir et les comprendre. Cela m'a souvent fait déplorer le cas de beaucoup de gens de cette ville et de cette nation, qui entendent quotidiennement prêcher la parole de Dieu et ne la retiennent pas dans leur cœur. Les semeurs sont sortis pour semer, mais beaucoup la reçoivent dans le terrain du bord du chemin. Le chemin où tout peut passer, là ils reçoivent la parole semée, et le diable l'enlève. Ainsi, bien qu'ils aient entendu d'excellentes choses sur la force, la capacité et la puissance que Dieu dispense à son peuple, ils demeurent si faibles et si chancelants qu'ils sont emportés par chaque souffle de l'adversaire, par chaque tentation et par chaque piège et traquenard qui leur est tendu. Ils sont pris, enlacés et capturés, et ainsi ils reviennent aux réunions encore et encore d'une année à l'autre. Je pourrais vous dire, pourquoi venez-vous? Peut-être direz-vous, nous désirons être satisfaits, nous désirons la satisfaction pour notre âme, est-ce bien le cas? Alors je vous dis, vous pouvez venir tous les jours de votre vie et en manquer, et à la fin, incliner la tête dans la tristesse malgré tout. Car toutes les paroles du monde ne communiqueront jamais cette vie et cette vertu céleste qui apporte la vraie satisfaction à l'âme, à personne, sinon à ceux qui s'exercent dans leur propre esprit, dans ce qu'ils ont reçu de Dieu. Il faut d'abord qu'ils soient amenés à connaître le chemin dans lequel ils doivent marcher, et à croire que c'est le chemin au point de marcher en lui. Quand les gens croient « ceci est mon chemin, la lumière intérieure est mon chemin, la grâce de Dieu est mon chemin, qui sonde et éprouve mon cœur, c'est mon chemin dans lequel je dois marcher, parler et penser, et dans lequel je dois faire tout ce que j'ai à faire », quand je crois que c'est ce chemin-là, alors cette croyance oblige les hommes à prendre garde à leur voix, à leurs pas. Et ici, ceux qui s'exercent ainsi ont un soin délicat à chaque pas qu'ils font dans leur chemin, et ainsi, peut-être, ils peuvent recevoir de grands bénéfices en entendant les récits qu'ils entendent chaque jour de ceux qui étaient dans le chemin avant eux et y ont voyagé plus loin qu'ils ne l'ont encore fait. Les expériences des serviteurs du Seigneur leur sont quotidiennement utiles, et ils sont quotidiennement consolés, fortifiés et confirmés, en entendant comment s'en sont sortis ceux qui ont traversé leurs conditions et leur état présent. Les secours et les avantages qu'ils ont rencontrés vous feront du bien et vous consoleront. Mais qu'est-ce que cela pour ceux qui ne sont pas dans le chemin, qui n'ont pas une foi active dans le chemin, bien qu'ils aient une croyance claire de la doctrine et du chemin lui-même, ils ne s'exercent pourtant pas à y marcher, car ils font comme le reste du monde disant « ce brave homme et cet autre brave homme ont fait un bon sermon, pourquoi était-il bon ?» Non pour un bien qu'ils y auraient trouvé, mais parce qu'il a bien établi sa doctrine et l'a prouvé par l'Écriture, donc nous sommes obligés de le croire. Mais maintenant, cette bonne doctrine, si bonne soit-elle, et si fermement prouvée qu'elle soit, ne produit aucun fruit pour l'amendement de la vie, sauf chez ceux qui croient au point d'en être motivés, aucun fruit, sauf chez ceux où il y a un exercice dans la crainte de Dieu, où les gens se soucient de la satisfaction de leur âme. Car ceux qui cherchent la vraie satisfaction par ceci, ou cela, ou par tel autre chemin du monde, passent leurs jours sans satisfaction, et ainsi, à la fin, ils meurent dans la tristesse, et il en sera ainsi jusqu'à la fin de cette génération et de toutes celles qui suivront. C'est pourquoi, mes amis, bien que j'avoue que ce n'est pas pour moi un chagrin mais une joie, de voir des gens disposés à entendre la vérité et à se réunir en grande assemblée, bien que je dise que ce n'est pas un chagrin mais une joie car je ne cherche pas à décourager ceux qui agissent ainsi, pourtant je dois être franc avec vous, je sais ce que je dis et vous le saurez aussi un jour que toutes ces réunions, ces rassemblements en grande assemblée, le fait d'entendre ce qui vous est prêché avec si grand plaisir pour votre esprit. Et lorsque les gens viennent à ce fondement, y bâtissent dessus, et deviennent chaque jour plus diligents dans l'exercice de leur esprit vers Dieu, et examinent leur voie, et examinent leurs pas, comment ils ont marché hier, comment ils ont marché aujourd'hui, et comment leur esprit s'exerce au moment présent, s'ils ont répondu à la grâce de Dieu, lorsqu'ils en viennent à s'exercer ainsi, ils se regarderont comme tenus par devoir de rendre compte à Dieu à chaque instant de leurs pensées, paroles et actions. Quand ils s'exercent ainsi, qu'ils viennent alors aux réunions au nom de Dieu, et qu'ils entendent les expériences de ceux qui les ont précédés et ont amassé des paroles dans leur cœur pour leur encouragement, et ils trouveront que cela leur sera d'aide. Mais si les gens vont bâtir une religion sur les dires de tel homme ou de tel autre, fût-ce même sur les paroles de Christ lui-même ou de ses apôtres, s'ils étaient ici pour leur prêcher, et qu'ils bâtissent une religion sur leurs mots, leurs paroles et leurs doctrines, sans les opérations de l'Esprit de Dieu sur leur cœur, les inclinant à la sainteté et à la justice, cette religion ne leur fera aucun bien. Par là, au mieux, ils pourraient s'adapter à atteindre une forme de piété, c'est-à-dire que les gens se conforment extérieurement aux préceptes extérieurs, aux commandements rituels ou cérémonies venant du dehors. Cette conformité pourrait équivaloir à une forme de piété. Pourtant, on pourrait supposer et admettre que la puissance de Dieu, la puissance de la vie et de la vertu divine, là où elle se trouve, sanctifie et assaisonne l'esprit, et amène les hommes à une révérence profonde du Dieu vivant, leur Créateur, afin qu'ils se tiennent dans la crainte et ne pèchent pas contre lui, car voici la vie de la religion. Cela diffère grandement de la manière de former les hommes à la religion à laquelle beaucoup ont été habitués. Ils nous disent « Nos pères avant nous ont été édifiés dans ces formes, ces modes et ces méthodes de religion, ils ont reçu tant de doctrines, d'ordonnances, de sacrements et d'articles, et quand ceux-ci sont reçus, crus et professés, vous êtes un saint, vous êtes un enfant de Dieu, et vous êtes un membre de l'Église. » Comment l'homme est-il arrivé à cela? Lundi, autrefois, les hommes étaient instruits de tous les principes de la religion chrétienne et soumis à toutes les ordonnances de l'Église, et un autre dit, quelqu'un pouvait parler excellemment de la doctrine de notre religion, donc il est à croire et certainement un enfant de Dieu et un membre de Christ. Mais toute cette acceptation des principes de la religion chrétienne, des doctrines, des ordonnances et des sacrements, tout cela n'aboutira pas à purifier le cœur, ni à nettoyer et purger la conscience. Non, et cela est encore bien loin de brider la langue, car ils se mettraient en colère à la moindre provocation, et au moindre déplaisir ou dégoût qu'on leur donnerait, leur langue déborderait en courroux, en impudicité et en profanation. À toute occasion et provocation, leurs paroles corrompues prévaudraient et les conduiraient à des pratiques de tromperie et de convoitise, et bien que les fruits et les œuvres du vieil homme demeurent, ils suivront le principe du régénéré, pour autant que celui-ci consiste en paroles. Si notre Seigneur Jésus-Christ dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu », alors cette vieille naissance corrompue prêchera un sermon sur ce texte et le professera. Combien se sont chargés de prêcher un sermon sur quelques excellentes paroles de Christ, qui n'ont jamais su ce qu'était la régénération, car la nouvelle naissance a toujours une vie nouvelle, mais ils ont vécu la vie de l'homme charnel, corrompu et déchu, et pourtant ils prêchent un sermon sur la régénération. Ainsi les ministres l'ont fait, et le peuple les a crus, et a été rassemblé dans un fossé astérisque et dans une telle église, car la plupart se mettent dans une église ou une autre, ils ont été des chrétiens d'alliance, membres d'une église, mais il leur a manqué ce qui fait un chrétien, un homme religieux, à savoir la réponse d'une bonne conscience. Astérisque puis il leur dit une parabole, « Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? » Luc 6, 39. « Alors qui est spirituellement aveugle? » Jésus nous dit, au verset suivant, que tout disciple non parvenu à la perfection est aveugle. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais quiconque est parfait purifié, restauré à l'image spirituelle de Dieu, spécialement autorisé et perfectionné sera comme son maître. Luc 6, 40. Remarquez, des guides aveugles non perfectionnés ne peuvent pas conduire. Jésus parle de dirigeants spirituellement aveugles. Un guide aveugle est quiconque n'a pas été perfectionné, mais quiconque est perfectionné sera comme son maître Jésus. La perfection enlève la poutre de ton propre œil, afin que tu puisses ôter la paille de l'œil de ton frère. En tant que vrai chrétien, il est tenu d'être un enfant obéissant envers Dieu, qu'il a engendré de sa propre volonté par la parole de vérité. Et cette personne peut attendre de Dieu une réponse de paix, par Jésus-Christ, en qui il a cru et par qui il est réconcilié avec Dieu. Si vous ôtez cette nouvelle naissance, cette nouvelle nature, et une réponse de paix de Dieu à l'âme, alors dites-moi ce qu'est la religion chrétienne, de plus que la religion des païens et des idolâtres qui adorent des morceaux de bois et des pierres. Tout le reste n'est que parole, et les hommes n'en sont pas meilleurs d'un iota. Un homme peut l'emporter sur un autre en bavardage et en discours. Un homme débauché a souvent été capable de parler à grande allure et de dire des choses remarquables, et certains ont été prêts à dire « C'est dommage qu'un homme d'un si excellent esprit mène une vie méchante. » Mais hélas, si un tel peut toujours parler de la puissance de Dieu, et que le diable ait pouvoir sur lui, ou s'il parle hautement de la sagesse de Dieu, et que lui-même se conduise d'une façon abominablement insensée, alors par une telle sorte de vie et une telle sorte de religion, les gens n'atteignent jamais la satisfaction. Après 40, 50 ou 60 ans passés en cela, ils doivent, malgré tout, incliner la tête dans la tristesse après avoir été des assidus de l'Église, des réciteurs de prières et des communiants, après avoir cru. Pourquoi? Quel est le problème? Que leur manquait-il? Il leur manquait la foi en la puissance de Dieu, qui les aurait rendus capables de vaincre leurs péchés et de vivre dans l'obéissance à Dieu. Et à leur profession extérieure, il leur manquait la réponse d'une bonne conscience et la justification par Christ, le médiateur. Peut-être parce que les vérités des premiers Quakers étaient si éminemment prêchées en Angleterre et en Amérique à l'époque de ce sermon, la fin du XVIII siècle, ceux qui mouraient dans la foi de leur fausse Église avaient de sérieux doutes en étant sur leur lit de mort, et étaient ainsi dans la tristesse avant la mort. Mais aujourd'hui, ces vérités ont été étouffées par l'ampleur de Babylone, allant jusqu'à prostituer la foi Quaker jusqu'au néant, et ainsi, je crains que beaucoup de soi-disant chrétiens ne soient sur leur lit de mort, totalement inconscients du destin qui les attend dans la vie à venir. Ils parlaient de rédemption par Jésus-Christ, mais n'ont jamais été rachetés de leurs péchés. C'est si évident et si clair qu'on ne peut soutenir le contraire. Si vous voyez un ivrogne, un blasphémateur ou une personne impure, et que celui-ci prêche et fasse un excellent sermon sur la rédemption qui est en Christ, et vous y dise quel grand bienfait ils reçoivent de Christ, qu'ils sont de vrais croyants et que Christ est un rédempteur et qu'il les rachète de la malédiction de la loi et de la culpabilité du péché et les réconcilie avec Dieu, de sorte que celui qui était sous la malédiction de la loi et héritier de la colère est maintenant un enfant de Dieu. Or, si vous examinez cet homme et lui demandez s'il est racheté et délivré du péché, de sorte que le péché n'ait plus de pouvoir sur lui, il vous dira non. Comment pas racheté, alors que vous êtes croyant depuis si longtemps, êtes-vous encore sous la servitude et la captivité du péché? Alors vous êtes sous le gouvernement d'un autre maître que Christ, un autre maître règne sur vous, si vous n'êtes pas racheté de vos jurons, mensonges, ivrognerie et impureté. Si vous faites ces choses, vous êtes sous la puissance et le gouvernement d'un autre maître que Christ. Or cela a alarmé des gens quand ils ont pensé qu'ils avaient été baptisés et qu'ils étaient des chrétiens professants. Ils se sont flattés d'une confiance sans fondement, que je meurs quand je veux cette nuit ou demain, je serai sauvé par Christ, je suis héritier du royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire, vous déshonorez le nom de Dieu par votre présomption. Quand les gens en viennent à examiner les choses et à relire le livre de leur conscience, et voient quels serviteurs ils ont été du diable, comment le diable les a menés de haut en bas à sa guise, eux qu'on supposait être des chrétiens d'alliance et des disciples de Christ, quand le diable leur a dit « Suis-moi », ils ont répondu « Je le ferai ». Quand le diable dit « Suis-moi pour faire ceci et telle autre chose mauvaise », ils disent « Je vois que je ne peux résister, je ne peux tenir contre la tentation, j'ai été surpris, pris au dépourvu, et entraîné par un tel appât, et enlacé par lui ». De telles personnes, je vous prie, cessez de parler de Jésus, car vous déshonorez le Seigneur Jésus-Christ, lui et ses disciples n'ont pas fait ces choses-là. Il a été tenté comme vous l'êtes, et ses disciples ont été tentés comme vous l'êtes, ainsi l'ont été les chrétiens d'autrefois, et les vrais chrétiens qui vivent au temps présent rencontrent bien des tentations, mais ils ne sont pas aux ordres du diable comme vous l'êtes. Aujourd'hui, en tant que peuple, nous sommes devenus si intellectuels que la plupart nient qu'il existe vraiment un diable. La plupart nieraient qu'ils soient contrôlés par un maître autre que leur propre cerveau. Ils diraient qu'ils choisissent de s'adonner à n'importe quel péché qu'ils sont en train de commettre. Rares sont ceux qui réalisent que l'esprit de Satan est en eux et en leurs semblables, l'esprit d'égoïsme, qui rationalise leurs convoitises, lesquelles convoitises sont une illusion, l'illusion que l'on peut devenir heureux avec plus d'argent, plus de femmes, une maison plus grande, une voiture plus chère, un bateau, un avion, des vacances sur la station spatiale, une promotion, etc. Pour cette raison, tant que l'homme pense créer son propre bonheur en suivant ses désirs, il n'a pas besoin de Dieu, et comme la parole du Seigneur au-dedans a dit en moi, « À moins qu'un homme n'ait vécu une expérience qui brise sa vie, il ne peut venir à moi. » Un homme doit renoncer à sa quête égoïste du bonheur dans cette vie, et chercher ailleurs la satisfaction, se tournant vers Dieu avec une espérance désespérée. L'apôtre Paul, à un moment de sa vie, fut, nous le voyons, réveillé et saisi d'effroi. Une lumière venue du ciel resplendit autour de lui, et il entendit la voix du Christ lui parler, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et il dit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, il t'est dur de regimber contre les aiguillons de la conscience. » Tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Actes 9, 3, 6, 26, 13, 18. Il en arriva, là après sa conviction, mais auparavant il avait été vaincu et emmené captif, et quand il voulait faire le bien, le mal était présent avec lui. Vouloir, dit-il, est à ma portée, mais accomplir, je ne le sais pas, mais il n'appelait pas cela un état heureux. Il ne disait pas alors, je suis dans une bonne condition, quand je suis mené captif par le diable à son gré. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et je suis charnel, vendu au péché. Il ne dit pas, c'est une bonne condition, je m'en contente, voyez comment il nomme cette condition. Il lui donne un nom plus juste que beaucoup ne le font de nos jours, qui disent, c'est l'état des enfants de Dieu, que même les meilleurs de tous les enfants de Dieu n'ont aucun pouvoir de vivre sans péché et de vaincre toute leur corruption, qu'ils pêchent dans leurs meilleurs devoirs, et ne peuvent rien faire d'autre que pécher, et que le péché se mêle à tous leurs devoirs et œuvres saints. Beaucoup de leurs ministres leur disent que, s'ils pensent pouvoir accomplir un devoir quelconque sans péché, ils se trompent eux-mêmes et courent le risque d'être maudits. Mais ce n'est pas un enseignement du Christ, cela vient plutôt d'un autre maître. Paul donna à cet état un autre nom, « Puissiez-vous être aussi sage quand vous êtes dans cet état et cette condition ?» Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera, je vois une misère dans cette condition, je vois que si je n'en suis pas délivré, je dois périr pour l'éternité. Ce n'est pas un état où vivre, qui peut vivre à l'aise dans une telle condition? Qui peut, sinon, s'écrier, qui me délivrera de ce corps de péché et de mort? Hélas, on n'entend plus un tel cri aujourd'hui parmi les prêtres ni parmi le peuple, et les congrégations séparées celles qui s'étaient choisies leur propre prédicateur. Je crains que ce cri ne soit presque perdu parmi nous, à moins que ce ne soit chez quelques-uns qui entendent la voix de Dieu, et ressentent un coup de la puissance divine comme Paul, et répondent à la voix céleste. J'avoue que moi-même, j'ai entendu un tel cri, et j'ai été sensible à ma lamentable captivité et servitude à cause du péché. Et bien que j'eusse l'intention de faire le bien, je ne le pouvais pas, mon désir était de ne plus pécher. Je désirais ne pas pécher contre le Seigneur si je pouvais l'éviter, et quand je voulais faire le bien, je trouvais que le mal était présent avec moi, mais j'étais loin de m'asseoir d'abandonner là, et de dire, c'est l'état et la condition du peuple de Dieu, je suis aussi bien que l'apôtre Paul, donc je vais m'asseoir cesser d'essayer de changer dans cet état. Le peuple de Dieu ne peut trouver satisfaction dans un état comme celui-ci, bien que j'avoue que le peuple particulier de Dieu est d'abord venu à cet état pour sa conviction, et l'ouverture de son esprit, et l'éclairement de son intelligence afin de voir le mal de ses voies, mais il ne vient pas à cet état comme à son repos, puis se persuade qu'il est dans la condition des enfants de Dieu. Au contraire, il donne à son état un nom exact, et s'écrie, « Misérable homme que je suis, dans quelles conditions misérables suis-je tombé, je ne le voyais pas auparavant. Maintenant mes yeux sont ouverts, maintenant mon intelligence est illuminée, maintenant je vois que la corruption de ma nature prévaut contre la grâce de Dieu, et quand je voudrais m'unir à la grâce de Dieu et au mouvement de son Saint-Esprit, l'ennemi est présent pour m'entraîner. Je ne suis pas maintenant dans un état heureux, mais j'ai progressé au point d'être convaincu de mon état et de ma condition misérable et malheureux. Si, d'une manière ou d'une autre, on ne trouve pas ma délivrance, je ne verrai jamais la face de Dieu avec consolation. Alors s'élève ce cri, « Qui me délivrera ?» Ainsi l'apôtre Paul, Romains 7:24, expose l'état de sa conviction et combien il était dans une condition misérable. Puis il va plus loin et vous dit comment il en fut pour lui. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai assez de raisons de rendre grâce à Dieu, je ne suis plus un misérable homme maintenant, je ne suis pas charnel, vendu au péché, je ne suis plus mené captif par le diable à son gré. Pourquoi, comment cela, l'apôtre dit, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà de quoi se glorifier et consoler l'âme. La loi de l'esprit de vie a triomphé dans son âme, l'a délivrée de la loi du péché et de la mort, l'a rachetée du pouvoir du péché, et l'a fait servir Dieu avec liberté et affranchissement. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je voudrais que tous en arrivent là, à rendre grâce à Dieu, non seulement en parole, mais en réalité, en acte et en vérité. Car on peut apprendre un perroquet à répéter ces mots, mais c'est la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus qui vous rendra libre de la loi du péché et de la mort. C'est une leçon difficile, c'est pourquoi vous devez rentrer chez vous, dans vos propres consciences, avant de pouvoir porter un jugement juste sur les choses et vous donner à vous-même une réponse juste. La loi de l'esprit de vie vous affranchira de la loi de votre passion, de votre orgueil et de votre convoitise, de votre sensualité, et de la loi de vos inclinations charnelles. En êtes-vous affranchi? Or, quand les gens viennent à s'examiner, ils n'ont nulle part où fuir, ils doivent prendre chaque jour leur croix et se confier au Seigneur Jésus pour leur délivrance, lui qui les a éclairés afin qu'ils voient leur état misérable et lamentable, et qui a illuminé leur intelligence afin qu'ils viennent à lui, pour être délivrés de la domination du péché. La plus grande partie du monde pense que c'est chose impossible, et c'est pourquoi ils n'espèrent pas être affranchis de la servitude de leur péché. Laquelle de ces voies suivez-vous? Je crains que beaucoup d'entre vous n'aient pris la mauvaise voie. Je ne juge personne en particulier, mais je dis cela avec fidélité et amour pour vos âmes. Ici qui est conscience de leur péché, et qui soit dans un état de captivité sous le péché et Satan, qui est désespéré d'être jamais mis en liberté, et qui est dit qu'il est vain de l'espérer, car certains hommes instruits leur ont dit qu'il n'y a pas de délivrance du péché dans ce monde, donc il est vain que je m'efforce, vain que je m'engage dans un soin et un combat continu, dans une guerre et une veille continuelle contre le péché, car cette délivrance ne peut jamais être obtenue en cette vie, il est vain de chercher une chose qui ne... S'il y en a de tels ici présents, j'ai ceci à leur dire, que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, a fait pour vous de grandes choses, pour vous aider à sortir de ce désespoir d'obtenir une pleine délivrance de la servitude de vos péchés. Premièrement, Dieu a placé un témoin pour lui-même dans vos poitrines, dans vos consciences. Permettez-moi de vous demander, n'avez-vous pas remporté la victoire sur de nombreux péchés et tentations qui vous ont assaillis, depuis votre enfance jusqu'à ce jour? Je pourrais mettre au défi quiconque dans cette assemblée, lorsqu'une tentation s'est présentée devant vous, n'y avait-il pas quelque chose en vous pour vous dire le danger d'y consentir? Votre conscience ne vous a-t-elle pas averti et appelé en vous disant « Oh, prends garde, ne fais pas cette chose mauvaise, ne trompe pas ton prochain, ne commets pas ce péché, que ce soit l'ivrognerie, l'impureté ou quelque autre péché auquel tu étais tenté. » Alors t'es-tu uni à cette voix dans ta propre conscience et ne t'a-t-elle pas aidé à passer au-delà de la tentation? Et lorsque tu as échappé au péché, n'en as-tu pas été content et ne t'es-tu pas réjoui d'avoir obtenu la victoire sur lui? Satan avait tendu un piège et placé une occasion devant moi pour commettre tel péché, mais je ne m'y suis pas uni, et maintenant j'en suis content. Ce n'était pas seulement la faute du diable, car il vient aux siens, mais il y avait aussi une mauvaise inclination dans mon cœur qui y tendait. Comment se fait-il que tu ne l'aies pas fait? Je savais que c'était un péché contre le Seigneur. Comment le savais-tu? Je savais dans ma conscience que, si je le faisais, je pécherais contre la lumière, contre la conviction et contre la grâce reçue. Et c'est pour cela que je ne l'ai pas fait. Ainsi, tu as reconnu que ta propre conscience t'avait aidé contre la tentation. Maintenant, j'en appelle à toutes vos consciences qui m'entendez aujourd'hui pour savoir si Dieu ne vous a pas fait cette bonté, et il n'y a personne ici qui n'ait, à un moment ou à un autre, été aidé à sortir d'une tentation. Je ne crois pas si mal de quiconque qu'il cède à toutes les tentations qu'il rencontre, mais la lumière dans leur conscience leur a montré le mal du péché, et ils en ont été préservés, et ils en ont été contents ensuite. Or c'est là une grande bonté que Dieu a faite pour chacun de vous, afin de vous aider à sortir de ce désespoir d'être délivré de vos péchés. Le désespoir, dans l'acception commune, est ce qui fait qu'un homme doute de son salut éternel. « J'irai en enfer quand je mourrai, il n'y a pas de miséricorde pour moi. » Ce désespoir a tellement agi sur des gens que beaucoup ont perdu la raison et le bon sens, et ont fini par se suicider, beaucoup ont été troublés et ruinés dans ce monde tant qu'ils y vivaient, et à la fin se sont ôté la vie. Et il y a un autre désespoir, celui de remporter la victoire sur ses corruptions et d'obtenir une liberté vis-à-vis du péché. Ce dernier désespoir, cette nation y est généralement tombée, astérisque, et bien que les effets de l'autre désespoir soient lamentables à voir, les effets de celui-ci seront un jour tout aussi mauvais s'ils ne sont pas empêchés en rectifiant l'erreur sous laquelle les hommes se trouvent. Pourquoi désespérer de la puissance de Dieu pour vous aider, et de la grâce de Dieu, et de la bonne volonté de Dieu pour votre délivrance, si vous ne vous unissez pas à la grâce de Dieu et à la puissance de Dieu qui est prête à vous aider et à vous délivrer de vos péchés? La conséquence sera terrible à la fin. Croyez donc en cette grâce de Dieu, qui vous a aidé contre certaines tentations et vous a donné la victoire sur certains péchés. Elle vous donnera, si vous vous y unissez fidèlement, la victoire sur tous. Cela mesure à quel point l'Angleterre et l'Amérique du XIe siècle étaient différentes. Il y avait alors un désespoir général à l'idée de ne pas pouvoir cesser de pécher. Aujourd'hui, la plupart des gens ne pourraient pas vous donner une définition correcte du péché et encore moins exprimer le moindre remords. Notre monde a tellement changé que nos consciences se sont émoussées jusqu'à ne plus fonctionner. Non seulement le christianisme a fait de la grâce un permis d'immoralité, mais le christianisme a aussi causé la cautérisation des consciences de ses croyants comme au fer rouge, les laissant indifférents au péché et au mal. Deuxièmement, considérez que Dieu a fait pour vous une autre bonté, il a envoyé sa lumière et sa vérité dans votre cœur pour vous engager dans une guerre contre le péché. Il y a un grand nombre de fidèles soldats du Christ qui ont combattu cette bataille avant vous, et ont obtenu la victoire, et ils vous diront qu'ils ne sont jamais partis au combat en leur propre nom, mais au nom du Seigneur Jéhovah. Lorsqu'ils se sont appuyés sur lui, et qu'avec douceur et crainte ils ont attendu après lui, il leur a donné la puissance de vaincre, ils ont été faits vainqueurs, et plus que vainqueurs, car ils ont vaincu ses ennemis qui parfois les avaient vaincus, et le Christ les a affermis et établis dans cette conquête pour n'être plus jamais vaincus. Voici à la fois une preuve extérieure et une preuve intérieure. La preuve extérieure ne vous servira à rien, jusqu'à ce que vous en veniez à saisir la preuve intérieure dans vos propres cœurs, alors la preuve extérieure que Dieu envoie vous sera utile. Ainsi, mes amis, je vous dis, comme je l'ai dit auparavant, que rien ne satisfera l'âme, sinon la vertu et la vie qui y coulent depuis la source de vie. Voici le chemin pour y parvenir. Si vous entendiez parler d'un trésor et d'une réserve de pain mis en réserve pour tous ceux qui veulent y venir, et que vous ne connaissiez pas le chemin pour y arriver, et que vous soyez près de périr de faim, quel cri s'élèverait parmi vous? Si un homme venait vous dire où se trouve un tel trésor de pain, quand vous êtes près de périr de faim, et vous dire que le chemin pour y parvenir est compliqué et étroit, mais qu'il y est allé lui-même, et qu'il peut vous en indiquer le bon chemin, et qu'il y a lui-même trouvé secours et provision, et une grande abondance accordée, et qu'il vous y conduirait, oh, comme un tel homme vous serait bienvenu! Oh, si seulement vous étiez aussi sage en matière spirituelle, et aussi soucieux de vos âmes que vous l'êtes de vos corps, et si vous suiviez le conseil des ministres de Dieu. Il vous tournerait vers la lumière au-dedans, la grâce de Dieu dans vos propres cœurs, dont vous êtes participants, et vous parlant au nom de Dieu, il vous demanderait de suivre les devoirs de vos propres consciences, et vous arriverez vite là où il y a du pain en suffisance. Par cette lumière au-dedans, vous verrez que votre état n'est pas aussi bon que vous l'imaginiez. Cet oracle au-dedans, c'est avec lui que vous devez vivre et demeurer. Vous devez rentrer chez vous avec lui, vous coucher avec lui, vous lever avec lui, et suivre ses directives. Si vous le faites, avant la fin de la semaine, vous aurez une expérience à me rapporter. Si je venais vous demander, j'ai obtenu plus de victoire sur mes péchés en suivant les directives de la lumière de la grâce de Dieu dans mon propre sein, qu'avec toutes mes lectures, mes écoutes et mes prières, et l'accomplissement d'autres devoirs. Faites-en l'essai, et vous trouverez la présence de Dieu avec vous, et qu'il est un Dieu proche, et non lointain. Et si vous bouclez votre armure spirituelle, le capitaine de votre salut ne sera pas loin, mais il sera présent devant vous. Gardez donc les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi, et vous pourrez tout par le Christ qui vous fortifie, et vous pourrez vaincre ses péchés et ses tentations qui vous ont vaincu. Que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus abatte le corps de péché et de mort, et vous introduise dans la glorieuse liberté que Dieu a préparée pour ses enfants. Sermon XXI. Les chrétiens devraient souvent penser au nom du Seigneur prononcé par Stephen Crisp à Devonshire, le 17 juillet 1692. Ce dernier sermon a été prononcé peu de temps avant la mort de Stephen Crisp. Le peuple de Dieu, dans les âges passés, pensait souvent au nom du Seigneur. Je souhaiterais que ce soit la pratique quotidienne de tous ceux qui professent être le peuple de Dieu en nos jours, de penser souvent au nom du Seigneur. Vous savez que c'est un exercice intérieur, invisible et connu de Dieu seul. Lui seul sait, lorsque vous êtes assemblés, si vous pensez à son nom, si l'exercice de vos esprits porte sur sa puissance, ou sur toute autre chose à laquelle vos esprits sont occupés. Ce dont l'exercice et le désir sont de sentir la puissance de Dieu et de connaître son nom, le Seigneur est prêt de pour leur révéler sa puissante puissance et son nom, et ils sont un peuple qui participe de sa bonté et de sa vertu, et qui a une connaissance expérimentale des nombreuses administrations, tant de ses jugements que de ses miséricordes, envers leurs propres âmes. Ainsi, ils peuvent passer de penser à parler de la bonté de Dieu, à partir de l'expérience qu'ils ont en eux-mêmes, que le Seigneur est bon pour eux. Car tout ce que certains font, dans leur manière de parler de Dieu et de sa bonté, et de vanter le nom du Seigneur à grands cris, ne vaut rien, ce n'est que du bruit. Mais quiconque participe dans son âme à quelque chose de la vertu et de la bonté divine qui s'écoule invisiblement de Dieu vers lui par Jésus-Christ, a en lui-même l'assurance qu'il dit la vérité. Ce ne sont pas de simples mots, prêts à sa main, mais sa propre connaissance et son expérience de ce que Dieu a opéré en lui par son propre esprit. Il n'y en a aucun qui pense au nom du Seigneur, à sa puissance et à son œuvre, sans être capable d'en parler avec efficacité et vérité. Remarquez bien. Crisp précise, qui devrait parler de Dieu, quiconque participe dans sa propre âme à quelque chose de la vertu et de la bonté divine qui s'écoule invisiblement de Dieu vers lui par Jésus-Christ, a en lui-même l'assurance qu'il dit la vérité. Il le limite à des chrétiens très mûrs, à qui l'Esprit fournit les paroles. Il ne suggère pas que tout ce que quiconque a à faire est de penser au nom du Seigneur pour être assuré que ses paroles sont vérité, ce serait totalement contraire à ce que les premiers Quakers ont prêché de façon constante. Je sais que cela a été, et est la pratique de beaucoup. Ils sont capables de parler de la bonté de Dieu d'après ce qu'ils trouvent dans les écrits et les paroles de certains qui ont vécu avant eux, et qui ont rendu un honorable témoignage de la bonté de Dieu dans leur religion, et ils apprennent à le redire dans leur époque particulière. Mais qu'a produit cette histoire qu'ils ont racontée? Ce récit qu'ils ont fait, disant comment Dieu était avec les chrétiens d'autrefois, les chrétiens primitifs et les martyrs, ils ont raconté une histoire de ces choses, et quel effet cela a-t-il eu? Cela a soit fait naître des chrétiens, soit non. Le moyen pour que les gens soient affermis et établis dans la connaissance divine, c'est que chacun dise ce qu'il sait. Et s'ils ne savent rien de ces choses par expérience, qu'ils n'en disent rien. Et le moyen pour eux d'en venir à recevoir la connaissance divine, c'est par la pensée, par la méditation, par la considération des relations que Dieu a eues avec leurs propres âmes, car il y a une voie prévue pour tous les hommes, afin d'avoir commerce avec Dieu qui les a faits. Tout homme et toute femme peuvent lui poser des questions et peuvent recevoir des réponses de sa part astérisque s'ils ont assez de patience pour les attendre. Toute âme ici présente, qui, avec sérieux d'esprit et humilité, demandera à Dieu quel est son état et sa condition, si elle devait mourir sur le champ, Dieu le lui dira, il lui répondra. Il brillera sur eux par la lumière de son Fils Jésus-Christ, et leur fera savoir s'ils sont encore dans le fiel de l'amertume et dans les liens de leur iniquité, ou s'ils en sont rachetés et introduits dans l'alliance avec lui-même. Mais croirez-vous sa réponse? Je ne voudrais que personne aille poser une telle question à Dieu, à moins qu'il n'ait l'intention de croire la réponse que Dieu lui donne. À quoi bon demander, si l'on demande mal, si l'on demande sans foi, on ne croit pas, à moins que la réponse vous plaise. Astérisque, il ne suggère pas que quiconque puisse poser n'importe quelle question au Seigneur et attendre une réponse. Sa déclaration ne s'applique qu'aux questions qui sont réellement des demandes de conviction sur votre condition, ou comme Crisp le dit, l'état et la condition de leurs âmes. Si vous posez des questions telles que « Quel travail devrais-je prendre ?», vous n'obtiendrez très probablement jamais de réponse. De même, si vous posez des questions dont vous n'avez pas réellement besoin de connaître la réponse, selon l'avis du Seigneur, vous n'obtiendrez très probablement jamais de réponse avant d'être dans le royaume et de tout connaître. Il est très mauvais d'attendre de Dieu qu'il réponde à vos questions, c'est vous qui essayez de fixer l'ordre du jour. Vous devez attendre Dieu dans l'humilité, désireux de recevoir tout ce qu'il souhaite vous communiquer, et non ce que vous voulez entendre. La prière correcte est avec des paroles fournies uniquement par l'Esprit, jusqu'à ce que vous soyez suffisamment mûr pour pouvoir former une telle prière, vous devez garder le silence et penser à son nom. Voyez la note de bas de page à F6:18, dans laquelle Isaac Pennington et George Fox expliquent cela en détail. Il y a une exception, entendue du Seigneur par un lecteur de ce site, aussi fort que quelqu'un debout à côté de lui, et il y a une écriture pour le prouver, « Je n'entends que la prière d'un homme juste et la prière d'un pécheur qui vient se repentir. » En référence à la suggestion de Crisp de poser à Dieu une question sur son état spirituel, une question humble et sincère à Dieu, au sujet de sa condition dépend totalement de la volonté d'accepter une réponse qui exige la repentance. Par conséquent, cette personne était venue pour se repentir lorsqu'elle y était poussée. Cependant, si vous venez à Dieu, en l'attendant, en écoutant et en veillant, avec une opinion exaltée de vous-même, vous n'obtiendrez probablement pas de réponse. Beaucoup, en nos jours, ont présenté à Dieu leurs requêtes et leurs prières pour qu'il leur révèle l'état et la condition de leurs âmes. Le Seigneur leur a répondu, et malgré toute la profession qu'ils ont faite par le passé de son nom, et de leur foi en son Fils Jésus-Christ et de l'œuvre de rédemption, il a pourtant souvent déclaré, « Vous n'êtes toujours pas rachetés, vous êtes encore dans votre péché, et les convoitises et les désirs sexuels prévalent sur vous, vous êtes encore dans la servitude. » Telle est la réponse de Dieu à beaucoup, mais quelque chose s'élève dans leurs esprits, qui les rend peu disposés à la croire, ils pensent qu'ils valent mieux que ce que Dieu leur a dit. Et si vous pensez mieux de vous-même, qu'importe, vous n'en êtes jamais meilleur, car la parole du Seigneur demeure certaine, parfaite et vraie. Il n'y a pas moyen d'y échapper, il n'y a pas de déni possible de la vérité. Si cette vérité vous condamne, le monde entier ne peut pas vous justifier, et cette vérité par laquelle Dieu condamne le pécheur se trouve dans le cœur même du pécheur. Qu'en fera-t-il ? Elle est dans la conscience du pécheur. Elle ne le condamne pas seulement par un livre, dans ce chapitre-ci et ce verset-là, chez cet auteur-ci et cet autre auteur, mais il est condamné par le témoin vrai et fidèle de Dieu, dans sa propre conscience. Vous ne voulez pas le croire, mais si vous ne l'avez pas cru, alors vous êtes demeuré dans votre incrédulité envers la vérité, et rien d'autre que la croire ne peut vous sauver, aucun autre conseil ne peut vous délivrer ou vous racheter. Ainsi, le meilleur avis et conseil que je puisse donner à un peuple dans ce cas est ceci, que lorsqu'ils viennent à une réunion religieuse comme celle-ci, ils viennent avec un esprit préparé et disposé à penser au Seigneur, à penser à son nom, et à la voie par laquelle il amène les gens à lui, car nul homme ne peut être appelé enfant de Dieu s'il ne participe pas à sa nature. Qu'un homme soit aussi sage, riche et grand qu'il soit dans le monde, qu'il soit prince ou empereur, sans être participant de la nature divine, il est un enfant de colère. Or, si ces enfants de colère rencontrent quelque chose qui les convainque, s'ils sont touchés et deviennent un peuple sensible, alors les couronnes et les diadèmes ne sont rien pour eux. Un tel dira, « Si je suis un enfant de colère, captif du péché et de mes propres convoitises et désirs sexuels, pourtant j'irai à une réunion religieuse, où j'espère que la parole de Dieu sera prêchée, j'espère y rencontrer quelque chose qui me fasse du bien, et j'ai le désir d'être transporté hors d'un état naturel, de passer d'enfant de colère à être introduit dans le royaume de Dieu. Si j'ai ce désir en moi, Dieu qui m'a fait l'a produit en moi, car par nature nous ne pouvons pas même penser une bonne pensée. Quand les hommes pensent à devenir meilleurs, à corriger leurs voies et à faire du bien à leurs âmes, ce sont des pensées très bonnes en elles-mêmes. Quand de telles pensées naissent dans le cœur de quelqu'un, je voudrais qu'on les attribue à la grâce de Dieu, et à rien d'autre. Les prédicateurs peuvent faire beaucoup là où ces désirs sont engendrés, mais il n'est pas en leur pouvoir d'engendrer ces désirs. Beaucoup sont venus à une réunion avec des esprits dissipés, profanes et vagabonds, et bien que beaucoup de bonnes choses leur aient été dites, cela n'a pas été jusqu'à engendrer de bons désirs. Leurs cœurs ont été tellement éloignés de la grâce de Dieu en eux, qui est le grand opérateur supérieur, dont nous ne sommes que serviteurs et ministres. Nul ne peut rien engendrer, sinon celui en qui est toute puissance. Ceux qui sont sous le pouvoir des ténèbres, le diable excite en eux l'immoralité et la vanité, la profanation et la dureté de cœur. Certains s'en vont d'une réunion sans avoir été touchés ni persuadés, et ils n'ont aucun bon espoir de devenir meilleurs. Mais là où les gens sont réellement touchés dans leur esprit, avec un désir de quelque chose qui leur fera du bien, ils doivent venir à la source du bien, au Dieu qui les a faits, et ils doivent penser à lui. S'ils ne peuvent pas voir sa gloire et entendre sa voix, ils peuvent néanmoins penser à lui. C'est le moindre devoir d'un chrétien, penser au nom du Seigneur, lorsque son esprit est exercé aux choses divines, à l'état et à la condition de sa pauvre âme. Si je meurs cette nuit, que va-t-il advenir de moi? Tel et tel péché, je les ai commis. Comment pourrais-je répondre devant Dieu pour un seul sur mille de toutes mes pensées, paroles et actions dissolues? Ceux qui en viennent à considérer cela et à sentir d'hume leur état et leur condition, même si c'est un état qui ne leur plaît pas, même s'il n'est pas tel qu'il devrait être, pourtant il peut être meilleur, ils peuvent en être tirés vers une meilleure condition. Or c'est le devoir de tous d'attendre Dieu, la source de tout bien, afin de recevoir quelque chose de Dieu. Car tout don bon et parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, le Père de votre lumière et de ma lumière, cette lumière nous vient du Père des Lumières. Si un don parfait nous est accordé, il est accordé par Dieu. Vous considérez donc que nous sommes tous obligés, du plus grand au plus petit, de l'attendre, si nous avons la moindre attente de Dieu par notre réunion, autrement, nous ferions mieux de rester éloignés. Mais je suis porté à juger que la plupart ici sont venus avec quelque désir, que s'ils plaisent à Dieu, ils puissent recevoir profit de leur réunion. Où l'auront-ils? Ils disent, « Si tel homme prêche, alors je peux être beaucoup édifié par lui. » C'est une grande erreur, car qui que ce soit qui prêche, personne ne peut recevoir aucun profit si ce n'est du Seigneur, comme source du bien, car les meilleurs prédicateurs du monde ne sont que des instruments dans la main de Dieu. Si Dieu ne bénit pas ses travaux, le prédicateur ne peut rien faire pour les âmes des gens, il peut faire retentir extérieurement la vérité à leurs oreilles, mais il ne peut aller plus loin. Dieu seul parle au cœur. Si vous faites attention au prédicateur et non à Dieu qui vous a fait, toute sa prédication ne vous fera aucun bien. Elle peut certes vous aider à une notion ou à une spéculation, mais cela n'entre pas à l'intérieur, ce qui n'aboutit à aucune amélioration, ainsi l'intérieur manque d'être réparé. Il y a de grandes difformités, des frayeurs, des taches, des souillures, des blessures et des lamentations sur les âmes des hommes, à cause de leurs péchés, convoitises et corruptions, et il manque un remède, et il n'y a pas de médecin valable, sinon Dieu qui nous a fait à son image. Le diable a introduit la difformité, il a rendu l'un orgueilleux, l'autre cruel, l'autre lubrique, l'autre oppresseur, l'autre malveillant, tout cela est l'œuvre du diable. Et c'est pour cela que Christ Jésus s'est manifesté et révélé, afin de détruire les œuvres du diable péché en nous. Il est venu détruire l'orgueil, la malice et la convoitise, voilà les œuvres du diable que le Christ a été révélé pour détruire. Pourquoi ne le fait-il pas? Il détruira tout ce que le diable a opéré en tout homme qui se soumettra à lui. Un chirurgien peut-il remettre un os en place, si le patient ne se soumet pas à sa main? Mais ceci est au-delà de toute comparaison, le Christ a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, et pourtant il cherche toujours un peuple volontaire. Il envoie le jour la lumière de sa puissance sur un tel peuple, et il agit sur leur cœur par une puissance irrésistible, il les rend disposés à être aidés, réparés, guéris, soignés, et alors il les guérit. J'ose dire qu'il n'y en a pas un ici qui soit disposé à être réformé et à se soumettre au Christ pour être sauvé et racheté par lui, qu'il ne le fasse. Celui qui est disposé et obéissant mangera des biens du pays et connaîtra le bien de la rédemption. Voyez si vous êtes parvenu à un état de rédemption. Voici une grâce universelle offerte, car la lumière de Christ Jésus éclaire chacun de vous, elle vous montre votre état et votre condition perdue. Quand nous voyons notre condition mauvaise, qu'elle n'est pas telle qu'elle devrait être, qui ne voudrait pas qu'elle soit meilleure. De la parole du Seigneur au-dedans, l'Esprit de grâce accuse et ôte à la fois, tout comme Jésus a dit « Repentez-vous » et a aussi guéri. Je me tiens avec ceux qui sont affranchis du péché. Nous allons à lui, et il fait pleuvoir sur nous son secours, cet exercice de Dieu purifie bien ceux qui le font. Bienheureux ceux qui sont libérés des liens de l'emprisonnement. Les gens n'ont pas entendu parler de la grâce de Dieu qui sépare du péché. Que signifie le devoir chrétien de la prière? Pourquoi devons-nous prier? Les gens ne doivent-ils pas sentir en eux-mêmes ce pourquoi ils doivent prier, avant de se mettre à prier? Et qu'est-ce qui les rendra sensibles, sinon la lumière et la grâce de Dieu? Ils voient leur propre manque lorsque Dieu opère la foi dans leur cœur, et ils croient que Dieu peut pourvoir à ses besoins. Pourquoi irais-je vers un mendiant pour le prier de me donner 100 livres? Je ne crois pas qu'il puisse le faire, donc je ne le lui demanderai pas. La nécessité amène les gens à prier, mais il faut qu'il y ait la foi en celui à qui nous prions, qu'il est capable de pourvoir à nos manques et de soulager nos nécessités. C'est pour cela que l'apôtre a dit, « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est, et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence » Hébreux 6. Il doit d'abord savoir qu'il y a un Dieu à chercher, puis qu'il récompense ceux qui le cherchent. Enseigne-nous ce que nous devons lui dire, car nous ne pouvons pas régler notre discours à cause des ténèbres. Job 37-19 « Voici le fondement de toute vraie religion et de tout vrai culte, ceux qui vont à Dieu et récitent leurs prières, et s'unissent à d'autres pour réciter leurs prières, s'ils n'ont aucun sentiment de Dieu, ils auraient aussi bien fait de se taire, car leur prière est sans objet. » La croyance de ceux qui prétendent croire en Dieu, sans une puissance expérimentale de Dieu agissant sur leur cœur, ne vaut pas un fétu. Sans égard pour la puissance de Dieu, toute leur croyance n'est rien. Mais s'ils savent que Dieu a une telle opération sur eux, qu'aucun homme ni aucune femme au monde ne peut leur révéler ce que Dieu révèle, alors ils savent que Dieu est celui qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins. Jer 17-10 « Supposons que je sache qu'il y a un Dieu, et qu'en même temps je crois qu'il ne m'entendra jamais, que je suis une créature réprouvée, et qu'il m'a rejeté pour toujours, et qu'il a scellé sur moi une condamnation pour l'éternité. Quelle raison un tel a-t-il de prier? C'est une condition désespérée. » Mais tant que nous croyons qu'il y a un Dieu, et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence, il n'est pas vain de prier. Toutefois, il y a aussi un préalable à la prière. Il y a la connaissance, et la foi en raison de cette connaissance, que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Celui qui a cela, qu'il prie au nom de Dieu, mais pourquoi doit-il prier? Il ne doit pas offrir le sacrifice des insensés. Il doit veiller sur ses lèvres s'il s'agit d'une prière mentale. Il doit prier pour ce dont il a besoin. Il prie pour quelque chose que Dieu lui a révélé par son Saint-Esprit astérisque dont il a besoin. C'est quelque chose dont il a besoin. C'est la puissance de vaincre la corruption et la puissance de vaincre la tentation dont il a besoin. Il a besoin d'un médiateur pour obtenir pour lui le pardon de ses péchés. De ces choses il a besoin, alors qu'il prie, que celui qui est affligé prie. Astérisque, ne confondez pas les besoins dont parle Crisp avec les désirs d'un homme. Crisp parle de besoins spirituels qu'un homme reconnaît, et non de besoins matériels, et il parle d'un besoin de surmonter une carence spirituelle que le Saint-Esprit lui a montrée. Tant qu'un homme n'a pas été changé par Dieu au point d'être sans convoitise, Dieu ne le bénira pas matériellement, car l'homme ne ferait que consumer cette bénédiction dans ses convoitises. De plus, rappelez-vous, Dieu sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne puissiez le demander, et avant même que vous puissiez former les paroles de votre prière, il connaît déjà vos pensées et vos sentiments. C'est pourquoi la plus grande partie de votre temps de prière devrait se passer en silence, à écouter et à veiller. Quand vous êtes suffisamment mûr spirituellement pour prier avec des paroles fournies par le Saint-Esprit, alors, bien sûr, vous priez ces paroles. L'Écriture ne dit pas qu'il récompense ceux qui le prient, elle dit plutôt que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Priez Dieu en babillant comme les païens avec tous vos désirs et vos besoins, ce n'est pas chercher Dieu. Allez à Dieu en s'attendant à ce qu'il vous donne quelques dons. Ce n'est pas chercher Dieu, chercher le donateur, pas le don. Aller à Dieu avec des questions dont vous pensez qu'il faut absolument qu'elles soient répondues, c'est comme aller en classe et interrompre l'enseignant pour exiger qu'il réponde à vos questions particulières, qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'il veut vous enseigner ce jour-là. Avant même que vous puissiez formuler vos questions en mots, il a déjà perçu votre désir de savoir. Si vous venez avec une question spécifique, comme une exigence de savoir, vous avez peu de chances d'entendre. Vous devez aller à Dieu dans l'humilité, sans autre agenda que de devenir agréable à ses yeux, d'être montré comment lui devenir agréable, et d'être aidé à cet égard. Vous devez aller à Dieu avec l'espérance de l'entendre vous parler par sa parole, ou de vous montrer des choses par la lumière de sa parole. Il sait ce que vous avez besoin d'entendre, pas vous. Il a toute la sagesse des cieux, vous n'en avez aucune. Il parle parfaitement, avec douceur, humilité, pureté, bonté, amour et sagesse, et ses paroles pour vous sont les seuls vrais trésors de cette vie que l'on puisse avoir. Ainsi, si un homme ou une femme se met à prier, il doit prier Dieu dans la croyance de sa bonté et de sa miséricorde, qu'il lui accordera quelques bénédictions, qui puissent être pour le mieux, qui puissent être pour son bien. Quand ils viennent à une réunion pour adorer Dieu et entendre la parole prononcée extérieurement, ils doivent prier pour quelque chose qui soit pour leur bien. Seigneur, donne-moi quelque chose qui soutienne mon âme et quelque chose qui me rende capable de résister à la tentation. Les esprits des gens devraient être ainsi exercés et ils devraient penser au nom du Seigneur selon leurs nécessités particulières, ils devraient répandre leurs supplications devant le Seigneur. C'est un culte de ce genre que Dieu recherche, et qui lui plaît, il délivrera ceux qui ainsi le prient des tentations, de sorte qu'elles ne prévaudront pas sur eux. La tentation d'un homme est d'un genre, et celle d'un autre genre, mais tous sont délivrés par la grâce de Dieu, et aidés à les surmonter par leur prière à Dieu, car ils trouvent par expérience qu'il est un Dieu qui exauce les prières. Or, quand nous avons prié, quelle est l'œuvre suivante? C'est d'attendre une réponse à notre prière. J'ai prié l'autre jour Dieu de me donner la puissance de résister à telle tentation. Quand cette tentation reviendra, je m'attends bien à ce que Dieu réponde à ma prière. Est-ce aussi votre cas? Alors, je vous prie, gardez les yeux sur cette même grâce de Dieu qui vous a convaincu et vous a montré la tentation, et exercez votre foi sur cette grâce de Dieu, et vous la trouverez suffisante pour vous, je vous le garantis. Que le diable vienne avec une tentation aussi appropriée et subtile qu'il voudra, gardez les yeux sur la grâce de Dieu, et elle vous délivrera. Ce fut le cas de Paul. Lorsqu'un messager de Satan fut envoyé pour le souffleter, il supplia le Seigneur trois fois. La tentation le quitta, et Dieu lui donna une réponse à sa prière « Ma grâce te suffit ». Comme s'il avait dit, « Que le diable vienne avec autant de puissance qu'il voudra, il ne te vaincra jamais ». Je m'adresse à ceux qui sont très habiles en ce genre d'œuvres astérisques et qui ont rencontré de vives tentations, et parfois peut-être en ont été vaincus, et d'autres fois y ont résisté. Quelle est la différence? Eh bien, tantôt ils sont relâchés et négligent, et n'ont pas prié pour obtenir l'assistance de la grâce divine, tantôt ils s'y sont tenus de près, et ont été délivrés. Astérisque Crisp s'adresse à ceux qui sont bien habiles à surmonter les tentations. Ne lisez pas ceci en supposant que Dieu va vous délivrer de toute tentation que vous priez de vaincre. Voici un exemple classique où vous n'auriez pas son assistance. Supposons que vous soyez dépendant d'un acte d'immoralité sexuelle, fornication, adultère, etc. Et que vous priez pour avoir son aide afin de vaincre cette dépendance. Or, au cours de votre journée, vous regardez quelque chose dans un film, un DVD, une vidéo, YouTube, la télévision ou pire, des sites pornographiques. Alors vous brûlez, alors votre esprit est tourné vers le sexe. Vous ne pourrez pas résister à votre dépendance. Vous avez probablement même commis des actes d'immoralité sexuelle dans votre imagination en regardant des scènes d'immoralité sexuelle. Si vous avez de telles dépendances, vous devez renoncer aux déclencheurs qui mènent au péché. Si vous êtes dans une relation adultère, vous devez cesser de voir cette personne. Vous ne pouvez pas maintenir une relation sociale avec elle et espérer vous abstenir d'adultère, et vous continuez probablement l'adultère dans votre esprit en vous associant avec elle. Ou bien supposons que vous ayez un problème d'alcool ou de tabac. Vous ne pouvez pas continuer à fréquenter vos amis buveurs ou fumeurs et espérer recevoir de l'aide pour surmonter cette dépendance. Il est très probable que le Seigneur vous dira de renoncer aux actes qui mènent à l'immoralité sexuelle ou à quelque autre dépendance, et vous serez tenté de les juger insignifiants, mais c'est l'obéissance aux petites choses qu'il vous dit qui est la clé du succès pour vaincre tout acte immoral. Ainsi, lorsque vous venez à la réunion, avec le désir de recevoir un bénéfice de Dieu, avec vos attentes tournées vers Dieu, pour recevoir la consolation des mains du Seigneur, que votre regard soit fixé sur lui et sur l'action de sa grâce dans vos propres cœurs, et prêtez l'oreille à cette voix qui est en vous, et elle sera plus efficace que la mienne. Si vous trouvez que l'œuvre de la grâce en vous est la même chose que celle dont je parle, alors croyez-moi à cause de la vérité, croyez-moi parce que vous trouvez en vous-même la même œuvre et le même témoignage. Et je suis persuadé qu'il n'y a personne ici qui, à un moment ou à un autre, n'ait résisté à la tentation qu'il a rencontrée. Dites-moi donc comment ils l'ont fait. Eh bien, la tentation est venue à moi, et il a plu à Dieu de m'en montrer le mal, que c'était une mauvaise chose si j'y cédais. Comment y avez-vous résisté? Le diable n'avait-il pas sur vous un pouvoir contraignant, pour vous y forcer, que vous le vouliez ou non? Dieu m'en a montré le mal, m'a délivré du mal, je ne me suis pas jugé et condamné en moi-même, parce que je me suis trouvé délivré, il n'y en a aucun parmi vous qui, si vous ne vouliez pas être paresseux et oisif, ne pourrait être délivré chaque jour, et faire l'expérience dans sa propre âme que, quand le diable vient et tente, le Seigneur est proche pour vous délivrer par sa grâce et sa puissance. De sorte que la seule manière pour les gens d'être préservés du péché et de l'iniquité, c'est d'avoir un respect révérencieux pour cette grâce de Dieu qu'ils ont déjà reçue. Je voudrais que cette vaine présomption qui règne depuis longtemps dans le monde vous soit ôtée de l'esprit. Quand vous voyez un mari, une femme ou un enfant méchant, vous dites « s'ils avaient la grâce, ils seraient meilleurs ». Moi je dis qu'ils ont déjà quelques degrés de grâce. Dieu a envoyé sa grâce et sa vérité pour apprendre aux hommes à renoncer à l'impiété, de sorte que je ne prierai pas pour que Dieu donne à mon mari, à ma femme, à mon enfant ou à mon ami la grâce, mais pour qu'ils brisent leur cœur endurci afin qu'ils se soumettent à la grâce de Dieu qui leur a déjà été accordée. Je crois qu'il n'y a ici personne qui soit totalement dépourvu de toute grâce, mais ils ne marchent pas selon elle, ils la foulent aux pieds. Car puisque chacun est doté d'une mesure de grâce, par Christ, notre devoir est donc d'avoir un regard révérencieux pour la grâce de Dieu que nous avons reçue. Et ceux qui croient, ce que la chrétienté enseigne au sujet de la grâce, comme excuse pour le péché toute la vie, et comme fait d'être un pécheur sauvé outrage l'esprit de grâce, tiennent le sang de Jésus pour une chose profane, et foulant aux pieds le Fils de Dieu. Quelle grâce ai-je reçue de Dieu ? Dira peut-être quelqu'un. J'ai reçu de Dieu assez de grâce, vous pouvez vraiment le dire pour discerner quand le diable m'apporte une tentation, quand il me tente à l'impureté, au vol, à la colère, à la malice, ou à tromper mon prochain. J'ai assez de grâce pour reconnaître que je suis tenté en ce sens, la grâce de Dieu me montre que c'est une tentation du diable. Mais la question est de savoir si je suis soumis à la grâce de Dieu, et si j'aime sa grâce plus que le profit ou le plaisir d'une tentation. Elle vient comme un appât, mais le diable ne peut pas me faire faire ce à quoi il me tente, ce n'est pas au pouvoir de tous les diables de l'enfer, ni de ses serviteurs sur la terre, de me faire commettre cette chose mauvaise. La lumière de ma propre conscience me la montre comme une tentation. Maintenant je suis libre et j'ai le choix, aimerais-je le profit et le plaisir qui accompagnent la tentation plus que la grâce de Dieu ? Je crois qu'il n'y a personne qui ait été éprouvé par une tentation sans pouvoir dire cela. Je laisse à celui qui sonde et éprouve tous vos cœurs, et qui connaît vos pensées, le soin de juger si vous vous êtes associé à la tentation afin d'en avoir le profit et le plaisir, ou si vous vous êtes associé à sa grâce afin de pouvoir résister à la tentation. Vous qui avez fait l'un et l'autre, dites-moi quelle est la meilleure affaire, quand vous vous êtes associé à la tentation afin d'avoir le profit et le plaisir qui l'accompagnait, ou quand vous vous êtes associé à la grâce de Dieu qui vous montrait le mal et le danger de la tentation. Le même Dieu vous parle, qui parla à Caïn, « Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ?» Et si tu ne fais pas bien, le péché est tapis à la porte. Si vous avez cédé à une tentation, le péché est tapis à la porte, il y a une brèche faite entre Dieu et votre âme. Le même homme, à un autre moment, ayant souffert si profondément à cause de cela, étant jugé par sa propre conscience, lorsqu'il rencontre de nouveau la tentation, dit « Que le profit ou le plaisir aille où il voudra, si je cède à cette tentation je ne pourrai aller à Dieu qu'en criminel devant un juge. Quel que soit le profit ou le plaisir, je ne m'associerai pas à cette tentation. » Le diable peut-il vous forcer à céder à cette tentation ? Non, si vous êtes fidèle à la grâce de Dieu dans votre propre cœur, elle vous rendra capable de résister au diable le plus puissant de l'enfer. Christ a acquis pour les fils et les filles des hommes une puissance pour résister à la puissance du diable, et à toutes ses ruses et tentations, et vous obtiendrez la victoire et aurez autorité sur elle. Si vous souhaitez grandir dans cette domination, quand le diable vient vous tenter, résistez-lui, et vous serez, par la puissance de Christ, rendu capable de vaincre. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été commune à l'homme, mais Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Cor 10:13 C'est pourquoi soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. James 4:7 Si Satan vous parle des profits et des plaisirs de ce monde, souvenez-vous que le monde passe et sa convoitise aussi, mais la paix avec Dieu demeure pour toujours. Par la grâce de Dieu, vous pourrez vaincre le diable et tous ses anges. Cette puissance est donnée à tous ceux qui croient et obéissent à l'Évangile. Si vous voulez en tirer profit, vous devez vous exercer à résister à la tentation et avoir égard à la grâce de Dieu et à l'action qu'elle produit dans vos propres cœurs. Et alors vous pourrez dire, quand une tentation vient, promettant profit et plaisir, comment pourrais-je commettre ce grand mal et pécher contre Dieu ? Tournez vos yeux vers la faveur de Dieu qui vaut mieux que la vie, et vous serez plus que vainqueur, vous direz, « La crainte de Dieu s'est emparée de mon âme, et la grâce de Dieu est venue à mon secours, et a été comme un rempart contre la tentation. Ici des louanges monteront vers Dieu, ici vous aurez occasion de dire du bien de son nom. » Souvenez-vous de ce que David disait, « Mon âme, bénis le Seigneur, qui m'a délivré de la fosse horrible. » Ainsi David et les saints d'autrefois louaient Dieu en leur temps, et pourquoi ne le ferions-nous pas ? Ils exhalaient des louanges vivantes et des actions de grâce pour les délivrances opérées pour eux, et ne le ferions-nous pas ? Or cela ne peut se faire sans penser à son nom, le nom de ce Dieu qui nous a fait. Me voici dans le monde, je vis et je respire encore, j'ai la santé, la force et des biens. Comment ai-je obtenu tout cela ? Me suis-je fait moi-même ? Non, il y a un Dieu qui m'a donné la vie, le souffle et l'être. Il tend la main de miséricorde pour me rassembler à lui, et pour me racheter de toute iniquité, afin que je le serve sans crainte dans la sainteté et la justice tous les jours de ma vie. Si je crois cela, je me réjouirai en lui, je l'aimerai et le louerai, et chaque jour je l'attendrai pour l'accomplissement de son œuvre. il ne désire pas la mort des pécheurs. Si vous croyez le Tout-Puissant, il lui est impossible de mentir, tout lui est possible, sauf cela, il a dit qu'il ne souhaite pas la mort de celui qui meurt. Que veut-il donc? Il veut que vous vous tourniez et viviez. Quels moyens emploie-t-il? Ce que je voudrais faire, j'emploierai des moyens pour l'accomplir. Vous diriez, quels moyens n'a-t-il pas employé? Qu'est-ce que Dieu souhaite davantage que de voir les hommes se repentir, revenir, vivre et être heureux pour toujours? Il les a créés, leur a donné la vie et le souffle, et a continué sa grâce envers eux, afin qu'ils aient le temps de se préparer pour l'éternité, et il leur a donné son bon esprit pour les instruire, mais ils se sont rebellés contre lui. Il a envoyé sa parole, l'évangile du salut, qui leur a été prêché, et il a attendu pour faire grâce et a exercé beaucoup de patience et de longanimité envers eux, de sorte que je puis dire, quels moyens a-t-il omis? Il les a plantés comme une vigne sur une colline très fertile, il l'a entourée d'une clôture, il en a ôté les pierres, il l'a plantée de ceps choisis, il a bâti une tour au milieu, il y a creusé un pressoir, et il attendait qu'elle produisît des raisins, et elle a produit des raisins sauvages. « Jugez, je vous prie, dit le Seigneur, entre moi et ma vigne. Qu'aurait-on pu faire de plus à ma vigne, que je n'ai pas fait pour elle, mais malgré toute votre stérilité, le jour de votre visitation se poursuit, le Seigneur veut montrer miséricorde à vos âmes. » C'est tout ce que le Seigneur, votre Dieu, exige de vous, que vous pensiez à son nom, que vous croyiez en lui et que vous vous confiez en lui, et que vous l'attendiez pour les opérations de sa grâce dans l'usage de ses ordonnances, dans votre participation à celle-ci, en prêtant l'oreille à sa voix et en lui obéissant, afin d'entendre et de faire vivre vos âmes. J'affirme qu'il n'y a aucun de vous ici présent, que vous soyez quakers ou non, qui ne puisse rencontrer les opérations divines de la puissance de Dieu dans son propre cœur, si vous y prenez garde. Et lorsque vous rencontrez ces opérations et que vous n'y prenez pas garde, je n'y puis rien. Si vous voulez résister aux bonnes choses de l'Esprit de Dieu, je n'y puis rien. Si vous voulez être de cet Esprit qui résiste toujours au Saint-Esprit, si, comme vos pères ont fait, vous faites de même, alors vous périrez tous, vous et vos pères. Il n'y a pas d'échappatoire sinon en étant soumis à Christ Jésus et à son Esprit vivifiant. Si vous rencontrez des opérations divines dans vos propres cœurs, laissez-moi vous persuader de vous y soumettre et d'y avoir égard, car je sais que le diable est tout prêt. Et lorsque des personnes rencontrent des opérations divines dans leur âme, qui les humilient, abattent leur orgueil et les convainquent du danger de leur état, ils se mettent sur leur chemin et suggèrent quelque chose de venimeux qui émousse le tranchant de ces opérations, afin qu'elles les prennent en aveugle. Il est vrai qu'elles rencontrent des convictions de péché, mais elles raisonnent qu'elles ont cette foi et cette croyance en Christ, qui, aux yeux de Dieu, excuse tous leurs péchés dont on peut les accuser passé et à venir. Astérisque si je regardais, disent-elles, l'opération divine, ou quoi que ce soit opéré en moi, cela suffirait à me rendre fou, je ne regarde qu'au mérite de Christ, mon esprit est entièrement fixé sur celui qui est l'auteur du salut éternel, ses souffrances méritoires et son obéissance peuvent effacer et faire disparaître tous mes péchés. Astérisque, c'est la permission de péché que la grâce est supposée fournir, il suffit de croire en Jésus, et vous pouvez vivre votre vie dans le péché jusqu'à votre mort et aller quand même au ciel. De la parole du Seigneur au-dedans, ce sont des mensonges tordus, pernicieux, un défaut fatal qui détourne le juste. La chrétienté considère une infime partie des Écritures, crépuise, adore une image, leur Dieu qui sauve les pécheurs et les laisse pécheurs. Ils ignorent les Écritures qui ne soutiennent pas leur Dieu fabriqué, ils ignorent les exclusions, les exigences et les conditions qualificatives énoncées clairement dans toute la Bible. Il y a 45 000 sectes différentes au sein de la chrétienté, chacune avec un Jésus différent, chacune avec un évangile différent, chacune avec l'image de leur conscience collective. Mes amis, je vous le dis, bien des pauvres âmes se sont brisées sur ce rocher en sous-estimant les opérations divines de l'Esprit sur leur cœur, elles font une application fausse et erronée des mérites de Christ, qui sont en effet si grands que nul ne peut les surestimer, mais nous ne devons pas en faire une application fausse car c'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable, il ôte la culpabilité du péché, non pour que vous continuiez d'y vivre. Quiconque croit en Christ aura pouvoir sur ses péchés et ne sera pas sous la domination et la puissance du péché. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Mes grâces soient rendues à Dieu. Alors que vous étiez auparavant esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la plénitude de l'enseignement qui vous a été transmis. Ayant donc été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains 6, 17-18. Objection, mais vous direz, je suis déjà coupable de beaucoup de péchés, que va-t-il advenir de moi à cause de la culpabilité que j'ai contractée? Si nous nions pas nos péchés, quand il nous reprend il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché 1 John 1 7 9, et si vous vous repentez à ma réprimande voici je répandrai mon esprit sur vous, Je vous ferai connaître mes paroles, Pro 1:23, et Jésus nous a dit que nous devions nous repentir. Voici une véritable application de Christ, de ses mérites et de sa justice. Lorsqu'il y a accord avec les accusations de Dieu concernant notre péché, et abandon de celui-ci astérisque qu'il y a une offrande et un sacrifice fait à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ pour l'expiation du péché, il a par son précieux sang acquis le pardon de tous mes péchés, afin de me présenter à Dieu sans tache ni défaut. Voilà une véritable application de la justice de Christ. Mais comment puis-je l'appliquer à moi-même tandis que je... Astérisque au commencement, si vous vous détournez du mal autant que vous le pouvez, les choses que vous, 1. Regrettez d'avoir faites, et 2. Cessez de faire sont pardonnées. De la parole du Seigneur au-dedans, détourne-toi du mal autant que tu le peux et fixe ton regard sur le ciel. Puis, tandis que vous attendez Dieu, le Seigneur ordonnera votre repentir ultérieur et vous montrera davantage ce que sont vos péchés. Note. Crispe, qui écrit avec l'autorité d'un homme dans le royaume de Dieu, vient de discréditer la pierre d'angle des fausses doctrines du christianisme et de définir les prérequis du pardon de Dieu, 1. Le remords astérisque pour votre péché, et 2. L'abandon de celui-ci. Donc, s'il n'y a pas d'abandon du péché, pas de repentance, pas de changement de comportement, alors pas de pardon, astérisque avoir du remords n'est pas confessé. De la parole du Seigneur au-dedans, mes vrais amis, ne pense pas au confessionnal, ne prends pas le temps quand tu as une vision claire. Quand la lumière vous montre clairement une pratique ou un désir mauvais dans votre cœur, vous pouvez penser que vous devez commencer à vous excuser ou à confesser le péché montré, mais cela ne fera que vous tirer hors de la lumière et freiner vos progrès. Il suffit de ne pas nier ce que vous voyez comme vrai, et le Seigneur sait que vous croyez que ce qu'il vous montre est vrai sans que vous preniez le temps de confesser. Votre remords sera remarqué par lui sans qu'une seule pensée soit formulée en mots. La doctrine chrétienne d'une fausse grâce a favorisé un pardon sans repentance, et ces distorsions fabriquées par des hommes encouragent ensuite la répétition continuelle de péchés délibérés chez leurs membres, ce qui entraîne leur grande destruction. Le Seigneur décrit cette répétition du péché sacrement, puis péché de nouveau au sacrement de nouveau, comme une conflagration, un grand incendie ou une grande destruction. De la parole du Seigneur au-dedans, sacrement, conflagration, continuez à faire ce que vous n'êtes pas censé faire, et ensuite être accablé de chagrin à propos de ce que vous avez fait. Une conflagration est un grand incendie ou une grande destruction. Église, être désolé pour toujours de ce que tu as fait, tout en te retournant aussitôt pour le refaire, cela s'auto-alimente. Et grande est la destruction de ces lieux de culte. Le milieu chrétien lui-même est conforme à la mort. En vérité, ces gens m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et ceux qui ont la marque de la bête auront 30 jours pour se repentir. Sors d'elle, mon amour. Il n'y a pas d'église dans le monde que Christ ait établi spécifiquement. Comme Daniel, tu es captif des Chaldéens. Ton lieu de culte est rempli d'oiseaux impurs. Sortez d'elle, mon peuple, vous êtes souillés. Les églises sont devenues le terrain d'abattage de la semence de Dieu. Ce péché délibéré, pardon, crucifiant le Fils de Dieu. Cependant, jusqu'à ce qu'ils aient tué leur conscience par des péchés répétés, ils peuvent encore entendre et peut-être être motivés à renouveler leurs efforts pour exercer leur foi. Mais pour chaque acte de désobéissance qu'ils ont commis, après avoir été convaincus en pleine lumière d'un péché particulier, ils doivent d'abord accomplir le même nombre d'actes d'obéissance avant que ce péché soit ôté de leur cœur. De la parole du Seigneur au-dedans, quand la lumière te montre quelque chose à faire, chaque acte de désobéissance doit être emporté par un acte d'obéissance. Ce que tu as vaincu et dans quoi tu retombes est bien plus difficile à vaincre la seconde fois. Ici, le témoin de Dieu dans la conscience du pécheur plaide contre le pécheur, lorsqu'il s'efforce de croire que sa culpabilité est ôtée, et que tous ses péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés, tandis qu'il continue de vivre dans le péché, et que le péché a encore autorité sur lui. Prenez garde de ne pas vous briser sur ce rocher. Si vous êtes des chrétiens humbles, vous penserez au nom du Seigneur, et quand vous trouverez l'opération de la puissance de Dieu faisant naître en vous de bons désirs de haïr le péché et d'aimer la justice, alors vous croirez, alors vous prierez le Dieu de toute grâce, car la prière des fidèles lui est agréable. La prière efficace et fervente d'un homme juste a une grande force, James 5:16. Entendu du Seigneur par un lecteur de ce site, je n'entends que la prière d'un homme juste et la prière d'un pécheur qui vient se repentir. Un homme juste est sous le contrôle total du Seigneur en pensée, en parole et en acte, ses prières viennent de l'Esprit. De la parole du Seigneur au-dedans, s'ils sont informés de ce pourquoi prier, ils peuvent être extrêmement efficaces. Prier selon ce qui est entendu, attente juste. Ceux qui pêchent encore ne sont pas entendus par le Seigneur, sauf si c'est la prière de quelqu'un qui vient se repentir. Les prières, exaucées, de ceux qui pêchent encore et qui n'ont pas prié pour se repentir sont soit des coïncidences, soit exaucées par le Dieu de ce monde. Que votre supplication soit donc répandue devant Dieu, afin qu'il vous dote de puissance et de sagesse pour soumettre tous vos ennemis spirituels, et pour vaincre vos désirs sexuels, et les désirs et affections déréglés de vos propres cœurs, afin que vous puissiez prendre la croix de Christ et le suivre comme votre grand modèle, et qu'en son nom, et avec l'aide et l'assistance de son Saint-Esprit, vous sachiez comment surmonter toutes les tentations. Sa prière après le sermon au Seigneur Dieu très glorieux, merveilleux est ta grâce, puissance sur toutes choses que tu as révélées et manifestées en ce jour béni, ton bras, ô Dieu Tout-Puissant. T'étendu, tu as touché un reste d'un sentiment de ton amour divin, que tu as rassemblé à ton nom, tu as révélé ton grand salut, et par là tu as réjoui les âmes de tes enfants. Tu t'es rendu cher à nos cœurs par la découverte et la manifestation de ton amour abondant, toi qui nous as aimés quand nous étions des étrangers et nous as préservés quand nous étions des ennemis. Et tu as fait venir sur nous un glorieux jour de visitation, et tu as ouvert nos yeux pour en contempler la lumière, de sorte que nous étions un peuple engagé. Tu as déclaré et manifesté aux fils et aux filles des hommes ta bienveillance et ta grâce universelle que tu étends chaque jour envers eux, afin que tous puissent devenir participants des richesses de ta maison et de ton grand salut que tu as ordonné par le Seigneur Jésus-Christ, et ô Dieu puissant de vie. Jour où tu nous as rassemblés pour la première fois, tu as été avec nous, tu as été notre guide, et nos yeux se sont tournés vers toi pour recevoir l'instruction. Tu nous as enseignés et conduits dans le chemin où tu voulais que nous marchions. Tu nous as conduits, Seigneur, dans la voie éternelle avec les pauvres, les humbles et les doux de la terre. Et tu as placé nos pieds, ô Seigneur, près de la montagne éternelle que tu as élevée sur les hautes collines de la terre. Et tu as révélé la gloire et la splendeur de ta maison, ton Saint. Et maintenant, Père Saint, tu as rassemblé un reste et amené un peuple particulier à se confier en ton nom. Mais encore, tout ce que nous le faisons par toi. Tu dois être notre gardien, tu dois être notre protecteur. C'est pourquoi nous attendons tout de ta main. C'est pourquoi nos démarches s'adressent à toi, afin que de jour en jour, et de temps en temps, nous trouvions ta présence vivante au milieu de nous. Et ô Dieu vivant de vie, tu as donné à tes enfants une grande expérience que tu es un Dieu proche de nous, dans nos épreuves, dans tous nos exercices. Comme nos yeux se sont tournés vers toi, tu nous as préservés, et tu as révélé ta puissance céleste au Seigneur en préservant et en délivrant ton Église et ton peuple, afin qu'ils rendent témoignage en leur génération de ton grand amour et du grand salut que tu as opéré pour eux et dont tu les as rendus participants. Maintenant, Dieu béni de vie, les désirs et les supplications de ton peuple s'élèvent vers toi pour la glorification de ta puissance et l'exaltation de ton nom glorieux. Ô Seigneur, que l'opération puissante de ta force courbe tous les durs et les obstinés qui se sont rebellés contre toi et qui ont résisté aux avances de ta grâce et aux pensées et aux efforts de ton Saint-Esprit. Tu es capable de les courber et de briser leur cœur de pierre, tu es capable de parler efficacement à leurs âmes et de les amener à se soumettre à toi. Père Saint et vivant, que le progrès de ta parole et de ton évangile soit grand en notre temps, qu'il ait libre cours et se répande puissamment parmi ceux qui ne croient pas, pour engendrer dans leurs âmes une semence de foi, afin qu'ils croient en ton nom et se confient en ta puissance, et qu'ils attendent de voir la grande œuvre de la rédemption opérée pour le salut de leurs âmes immortelles, avant que le jour de leur visitation ne s'achève. Dieu puissant de vie, ton petit reste que tu as racheté, garde-le par ta puissance et préserve-le dans la droiture et la pureté d'esprit, préserve-le dans les lieux et les postes où tu as ordonné qu'il demeure, afin que dans toutes les épreuves, tribulations et détresses qui peuvent lui survenir, il demeure tranquille et paisible, et que par la patience il possède son âme, et qu'il ait une forte consolation dans cette alliance éternelle que tu as conclue avec dans ton Fils que tu leur as révélé, et qu'il ne soit pas ébranlé et ballotté par les agitations de ce. Dieu puissant de vie, poursuis ta propre œuvre dans cette ville et dans toute la nation, et en d'autres lieux parmi le peuple que tu as choisi et rassemblé à toi hors de ce monde. Dieu puissant de vie, souviens-toi de ceux qui gémissent dans le péché en t'adressant leurs plaintes, parce qu'ils ne peuvent saisir de consolation pour leurs âmes. Prépare-leur cette consolation, après laquelle leurs âmes soupirent. Ils luttent jour et nuit avec toi dans une prière fervente, mais que signifieront toutes leurs luttes, si ce n'est que ta parole et la puissance de ta grâce les assistent et leur apprennent à saisir ta force, afin qu'ils combattent le bon combat de la foi, qu'ils obtiennent la victoire, se réjouissent de ton salut et envoient la gloire. Tu vois comment les enfants des hommes travaillent et imaginent de nombreux moyens pour leur propre salut, fais-leur connaître que tout leur chemin et toutes leurs inventions sont vains, Dieu béni de vie. Déjoue les desseins des impies qui cherchent à ravager ton héritage, et tout ce que tu as rassemblé par ta parole, préserve-les afin qu'ils te servent avec des esprits sincères et droits tous les jours de leur vie, et qu'ils t'offrent chaque jour des actions de grâce et des louanges vivants, à toi le Dieu vrai et vivant, et à Jésus-Christ que tu as envoyé par ton esprit éternel, à qui seul appartienne la dignité, Dieu au-dessus de tout, béni au siècle des siècles. Amen. Fin. L'objectif de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.